Les choses dont je voudrais vous parler, c'est les choses suivantes. Capitalisme cognitif, donner quelques éléments de définition, revenir sur des concepts indispensables. Et pour ça, je vais vous lire une fable que j'ai composée et qui va surtout parler de deux concepts fondamentaux pour nous, les externalités et ce qu'on appelle immatériel ou intangibles en anglais. En trois, je vais m'intéresser à l'abeille et l'économiste et à quelque chose qui s'appelle la pollinisation pour en faire un peu un paradigme, le vecteur d'un changement de paradigme de l'économie. Parler d'un autre monde, c'est-à-dire de ce que j'appelle la société pollen, qui est au-delà du capitalisme. Parler d'une autre économie, de ce que j'appelle l'écolonomie, ou l'api-économie, bees economics en anglais. Et enfin, quelques conséquences, notamment, je voudrais vous dire deux mots sur la crise financière et une appréciation de la crise actuelle. Alors, le capitalisme industriel, si vous voulez, c'était la grande entreprise apparue à la fin du 19e siècle, beaucoup plus que le marché, c'est ça, hein, si on se place sous spécie éternitatis, c'est-à-dire à peu près en partant d'Ur ou de Babylone. Le marché, on l'a dans le code d'Amourabi, la grande entreprise naît en 1890, ça je vous jure qu'on le trouve, c'est vraiment une exclusivité de notre humanité de la fin du 19e et du 20e, et on la trouve nulle part avant, etc. Division du travail et économie d'échelle, vous connaissez tous ça. Salariat qui est devenu la condition de entre 80 et 85% de la population. Un économiste célèbre qui s'appelait Zrafa parlait de la production de marchandises à partir de marchandises. Avec une chose que vous connaissez tous et que vous maniez tous, qu'on apprend dans les études d'économie, mais qu'on apprend partout, qui est tout simplement des tableaux input-output, des matrices. Et au fond, toute la production peut être décryptée comme la production de marchandises, au moyen de marchandises, avec des coefficients techniques, et on peut faire la même chose en termes d'emploi, qui produit pour qui, ça a été fait par Baudelot et Stabler. J'ajouterai à partir de machines, au pluriel, consommant des énergies carbo-fossiles, c'est quand même la grande caractéristique de nous, vous savez que nous sommes extrêmement, je dirais pas carnivores, ça nous le sommes, mais nous sommes extrêmement gourmands en énergie carbo-fossile, qu'elle soit le charbon, la première révolution industrielle, ou là, le pétrole, ou ses dérivés, maintenant le gaz. Outils fondamentaux, trois outils qu'on connaît aussi. On a trois formes d'organisation, la hiérarchie d'un côté, le marché de l'autre. C'est-à-dire le marché n'est pas la hiérarchie parce que les prix ne sont pas administrés, théoriquement. Ils obéissent à des mécanismes d'ajustement simultané des quantités et des qualités. Et de l'autre côté, la hiérarchie qu'on trouve aussi bien dans l'État que dans l'entreprise. Voilà à peu près le tableau si on voulait aller très vite. Le capitalisme cognitif, à côté de ça, c'est un autre système d'accumulation. Si vous regardez, au fond, il fonctionne avec l'entreprise réseau. Il fonctionne, qu'elle soit 2.0 ou peut-être qu'elle aille plus loin, qu'il fonctionne avec le numérique, c'est-à-dire que de plus en plus, il fonctionne avec une digitalisation, comme on dit en anglais, une numérisation de données, et le réseau des réseaux qui coiffe tout ça. Je dirais qu'un des points, ça a été mis en valeur par des économistes aussi divers que Boyer, que Coriatre à l'école française de la régulation, mais aussi l'école américaine. Ce qui est très important, c'est que les économies, on a appelé ça des économies de variété et des économies d'apprentissage par opposition aux économies d'échelle, c'est-à-dire qu'on revient à des petites productions sur des petites séries démultipliées, surmultipliées. Mais le point le plus important, c'est la division cognitive du travail. Alors, je réfère, pour vous indiquer ce que c'est, très très vite, dans l'industrie, hein, dans la gestion de la production, on se réfère à la transformation chez Renault, qui a connu ce moment-là, comme d'autres grandes entreprises industrielles de l'automobile, lorsque Renault est passé d'un système de conception des modèles par ingénieur, bureau des méthodes, appel d'offres, réunion des entreprises sélectionnées de sous-traitance selon une charte très très précise, on est passé à la réunion de l'ensemble des gens qui avaient travaillé avec eux pour faire le modèle de la Clio, et en demandant à tous les gens, au fond, qu'est-ce que vous savez faire? Et en partant de ce que savaient faire les gens pour construire une voiture. Ce qui a permis de raccourcir extraordinairement les délais. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça s'appelle la gestion par projet, si vous voulez combiner des choses, vous partez des connaissances existantes, des meilleures connaissances existantes. Vous essayez de les trouver sur un territoire, d'ailleurs, qui déborde souvent l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a de la gestion de projet. Et vous, parce que si vous concevez les produits dans un univers qui change tout le temps, en vraiment construisant un cahier des charges, en essayant de recruter les entreprises médisantes, etc., vous n'en finissez pas, et vous mettez 12 ans à faire un modèle de voiture, ce qui fait qu'à l'arrivée, il est déjà obsolète. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, vous avez, dans l'industrie automobile qui est en pointe, par exemple, même l'industrie américaine, au diktat tout à fait soviétique de l'administration Obama, prière de faire en 2011 un moteur qui consomme moins 215 mg particules par je ne sais plus combien, voilà. Les entreprises, elles sont désespérément à la recherche de moteurs qui obéissent à ça. De carburants qui obéissent à ça. Donc elles cherchent partout des choses. Et si vous regardez comment M. Bolloré est en train de penser le moteur électrique au lithium, vous voyez qu'il est en train de chercher en Bolivie auprès de M. Morales des réserves de lithium, en train de chercher auprès d'un ingénieur israélien qui est allé en Californie le software de tout ça, et enfin de cliquer un réseau de distribution en Israël pour voir comment ça marche. Les distributeurs. Donc voilà, c'est les assemblistes. Hein, ça, éventuellement, je pense que Antoine nous en parlera plus particulièrement quand on va parler des concepts d'intégration, etc. Alors, dans lequel, au fond, l'accumulation, qu'est-ce que c'est que l'accumulation ? Elle porte sur la connaissance et la créativité. Alors ça, il faut peut-être le souligner. Enfin, peut-être le... est-ce que j'ai peut-être été trop vite ? Non, c'est bon. Alors, pour aller très vite, on peut dire qu'au lieu de produire des marchandises au moyen de marchandises, inertes, mises en œuvre par des machines consommant beaucoup d'énergie, on produit du vivant au moyen du vivant à partir, au fond, de systèmes négantropiques et avec une consommation d'énergie bien moindre. On produit des connaissances nouvelles au moyen de connaissances passées. On échange et on accumule quelque chose de plus large que la marchandise et que des biens matériels. Ça, c'est très très important parce qu'on va y venir, je vais y venir tout de suite sur les questions de connaissance, enfin, dans la deuxième partie. Vous voyez qu'au fond, à partir du moment où on ne se contente pas de produire des marchandises ou de produire des produits, mais qu'on essaye de produire des procédés ou des processus, alors on met en œuvre quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qu'on appelait traditionnellement les marchandises. On verra qu'il y a un strict corrélat, y compris dans ce qu'on appelle la consommation de la force de travail des gens. On compte sur des forces, je dirais, du côté du non-humain et du côté du cérébral qui n'étaient pas prises en compte. Ça veut dire que quand vous prenez les analyses aujourd'hui économiques, écologiques, pardon, et qui essayent de voir qu'est-ce que ça signifie du point de vue économique, vous vous apercevez que, finalement, l'outcome global des cultures, vous avez une composante qui est fondamentale, non seulement la composante solaire, des tas de choses comme ça, mais vous avez des composantes qui font que nous sommes un tout petit morceau d'un agencement d'une biosphère dans laquelle les insectes, par exemple, contribuent de façon considérable à la production, les vers de terre contribuent à la biomasse, etc. C'est-à-dire que l'ensemble des gens produisant le milieu vivant, des êtres produits, du vivant produisant le milieu vivant, j'allais dire que notre activité est un petit morceau dans cet ensemble qu'il s'agit de placer, et en particulier, faisons très attention que lorsque nous intervenons là-dedans, nous pouvons intervenir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et nous pouvons en particulier détruire des éléments qui apportaient quelque chose qu'on avait oublié de compter. D'autre part, il faut également prendre en compte des choses qui, dans le cérébral, n'étaient pas prises en compte jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on se déplace sur le fait que ce qu'on demande aux gens, c'est de l'innovation, c'est de la capacité d'être intelligent, on verra pourquoi, c'est évident que le cérébral joue un rôle fondamental et le cerveau est infiniment plus compliqué à mettre en route que le muscle. Le muscle, c'est assez bête. Ça marche, ça se repose, c'est complètement inerte. Ça se consomme pendant un certain temps, c'est fatigué, ça se reconstitue. Hein, c'est ce qu'on appelle de la force de travail. Bon. Le cerveau, c'est infiniment plus compliqué parce que d'abord, vous ne pouvez pas le séparer d'un corps, vous ne pouvez pas le séparer des relations, vous ne pouvez pas le séparer de l'éducation, du temps qu'il a eu, et par conséquent, vous ne pouvez pas consommer du temps, même du temps d'attention cérébrale, ou du temps cérébral, comme vous consommez des brouettés de transport de matériaux, comme on avait l'usage de le faire. Et ça, ça a toujours existé, mais si vous voulez, à partir du moment où vraiment nous sommes en plein dans la cérébralisation ou l'immatérialisation de la production, ça joue un rôle croissant. Alors, le capitalisme cognitif, au fond, c'est une troisième... Je vais aller très vite là-dessus, parce que ça se réfère à des choses que j'ai déjà faites. D'une part, et je voudrais m'apesantir sur d'autres éléments, mais disons que c'est la troisième forme de capitalisme historique. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu le capitalisme mercantiliste et esclavagiste qui a commencé grosso modo du XIIIe, XIVe siècle à la fin du XVIIIe, qui a duré d'ailleurs tout le long du XIXe pour ce qui est esclavagiste. On a le capitalisme industriel, au fond, dont l'acte de naissance c'est 1750 et dont la mort c'est 1775, à peu près. 1975. Et là, on a l'émergence d'une nouvelle grande transformation qui conjugue une révolution technique, linguistique, biopolitique, une crise d'exécution des rapports de propriété, un affrontement croissant autour de nouvelles clôtures ou de nouvelles accumulations. Ça veut dire que si l'objectif du capitalisme demeure toujours l'accumulation de richesses, la nature, le type, les modalités de cette accumulation sont en train de changer complètement. Et cette grande transformation est équivalente à celle de la Renaissance, notamment parce que le numérique, c'est au moins l'équivalent de Gutenberg, et parce que ça implique une mutation profonde dans le régime de la science et de la connaissance dans la production. Alors, pour que, si vous voulez, un système d'accumulation soit centré sur la captation de gains tirés de la connaissance et de l'innovation, ça dépend de six facteurs conjoints. De la révolution du langage, et j'insiste sur le fait conjoint, la révolution du langage informatique, tout le monde l'a dit depuis la révolution cybernétique, de la montée continuelle de la capacité de traitement et de stockage des données numérisées par les ordinateurs, d'une réduction drastique des coûts d'acheminement de l'information par les propriétés supraconductrices et la fibre optique, la miniaturisation, ce sont les nanotechnologies dans lesquelles nous rentrons tout juste, mais je voudrais insister sur le rôle très important de l'appropriation continuelle des titres, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication, par un nombre croissant de cerveaux humains opérant sur des réseaux reliés entre eux par au moins un réseau des réseaux, qui peut être l'Internet, mais qui peut aussi évoluer vers autre chose. La révolution numérique, au fond, permet de codifier les connaissances et codifier dans la connaissance, qui est de l'ordre de la répétition. Donc de transformer en information, base de données, des éléments explicites de la connaissance. Mais en revanche, l'activité cérébrale affranchie par l'ordinateur et la numérisation de l'information, des calculs de contenu, des opérations simples mais longues, se trouve vouée aux tâches de compréhension, d'interprétation et de création innovante. Si vous voulez, pendant la révolution industrielle, au fond, la mécanique a substitué une partie des tâches matérielles effectuées par les parties inférieures du cerveau, la motricité, l'énergie musculaire. Et du coup, on a vu que ce qui s'est développé, c'est quoi? C'est les conducteurs d'engins, c'est ces choses-là qui sont devenus les éléments de travail qualifiés. Cependant que les autres avaient une déqualification. À partir du moment où la numérisation informatique s'est occupée d'opérations effectuées par les hémisphères cérébraux, on a eu aussi une absorption dans les logiciels et dans le hardware de ces opérations du cerveau, y compris d'ailleurs leurs produits ou leurs traces dans les bases de données. Seulement voilà, à partir du moment où ces bases, si vous voulez, sont transformées en biens d'information ou en software, elles sont radicalement dévalorisées. Il y a une dévalorisation de ça parce qu'elles peuvent être reproduites en nombre infini, à un coût très faible, et on verra que sur l'Internet, il y a une difficulté énorme à les protéger par des droits de propriété comme on le faisait avant, par les difficultés de verrou technique, de la technique. Avant, le verrou de la technique faisait, quand vous photocopiez une photocopie, la photocopie d'une photocopie d'une photocopie, ça ne marche pas, et au bout de 10 photocopies, 2 photocopies, vous ne voyez plus rien. Donc, vous pouvez copier, vous ne pouviez pas copier. Bon, maintenant, un CD, vous pouvez le copier parfaitement, et il va rester éternellement, enfin, sauf le support qui est de mauvaise qualité, mais enfin, un fichier, si vous voulez, peut durer et peut être distribué à 2000 personnes. Il n'y a aucune différence entre envoyer un fichier à 2000 personnes et envoyer à une personne. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas dans le domaine du courrier normal. Alors, cette activité, donc, qu'est-ce qu'elle fait apparaître? La bêtise de l'ordinateur, qui est bien commode, et qui fait des tâches, d'ailleurs, que nous sommes en train de perdre, le calcul mental, l'étape de logarithme, etc., fait que du même coup, apparaît comme valeur fondamentale, quoi? L'intelligence. La connerie de l'ordinateur fait apparaître l'intelligence humaine. Et quelle est l'intelligence humaine? Si vous voulez, pendant la première partie de la cybernétique, on a dit, le cerveau, c'est comme un ordinateur. Ça a duré à peu près jusqu'aux années 70-75 et les travaux de Herbert Simon, qui est d'ailleurs un économiste, qui a été le premier à équiper l'université de St. Louis, dans le Missouri, d'ordinateurs pour tous les étudiants et les profs, au passage. Après, on s'aperçoit que, au fond, pour que l'ordinateur fasse des choses intelligentes, il va falloir qu'il apprenne à imiter le comportement cérébral. Et qu'est-ce que le comportement cérébral ? La caractéristique du comportement cérébral, c'est l'intelligence, c'est-à-dire de fournir une réponse non partiellement programmée à une question qui n'avait pas été prévue. Autrement dit, elle nous permet de donner des réponses dans la vie la plus quotidienne ou dans les problèmes les plus graves à des choses qui n'ont pas été strictement pré-programmées. Autrement dit, ce n'est pas un jeu où, dans un jeu d'informatique, vous vous baladez sur toute la surface et quand vous activez, toutes les issues ont été prévues. Alors maintenant, il y a des jeux interactifs en ligne qui permettent de faire apparaître des propositions nouvelles à plusieurs, mais ça, c'est de l'interactivité. Justement, c'est une des caractéristiques du cerveau. Alors, cette chose est très importante parce que du coup, si vous voulez, et là j'en viens à des choses importantes, l'information et la connaissance codifiée qui se réduit à une suite binaire, immédiatement reproductible, évidemment, crée une chose très importante parce qu'elle transforme une perception, un affect, une connaissance en, si vous voulez, une somme d'informations, un tableau en pixels, etc. Et au fond, du point de vue du substrat matériel, ces éléments ont tous des liens publics. Ils sont indivisibles. Ils sont non-rivaux, ils sont non-excluables, ce qui veut dire que, si vous voulez, il y a une sacrée difficulté à transformer ces connaissances codifiées en marchandises.
Il faut expliquer, je pense, alors, ces concepts-là.
Qu'est-ce que c'est qu'un concept indivisible ?
Par exemple, vous êtes devant un coucher de soleil, bon, il y a à la fois une non-rivalité et une non-excluabilité, comme on dit. Désormais, quand on réfléchit à ces questions de bien commun.
Oui.
C'est-à-dire que le fait d'en jouir n'exclut personne de la jouissance du coucher de soleil. Et puis, vous pouvez empêcher personne d'en profiter.
Et vous ne pouvez pas le débiter comme une bouteille d'eau d'Évian. Bon, ce n'est pas divisible. Mais une émission de radio, d'un certain point de vue, à partir du moment où vous la programmez et qu'elle est sur un canal accessible, est un bien indivisible, non rivable. Non excluable, non rivale, ça veut dire que vous pouvez en faire des usages différents les uns des autres. Il y a des gens qui écoutent l'émission de radio qui prennent des notes, il y a des gens qui écoutent ça d'un derrière distrait, il y en a d'autres qui font autre chose en même temps. Les usages différents sont possibles. Pour un bien matériel, c'est strictement impossible. Mais ces caractéristiques, divisibilité, rivalité et excluabilité, sont la base classique de toute marchandisation d'un bien. Et vous savez qu'on prend toujours en économie l'exemple de la lumière du phare. Les économistes parlent toujours d'un bien public parce que le problème d'un bien public comme la lumière du phare, c'est qu'à moins de crever les yeux des gens ou de leur mettre des lecteurs avec des brouillages et des décodeurs, eh bien tout le monde peut profiter de la lumière du phare. Donc personne ne va vouloir payer pour la lumière du phare. Donc il va falloir le subventionner par un mécanisme qui est celui de la taxe. Vous ne pouvez pas créer un marché de la construction des phares. Il n'y a rien à faire. Vous prenez le problème comme vous voulez et les biens publics, c'est comme ça. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que cette codification, l'énormément de choses qui sont très sophistiquées dans la connaissance, aboutit progressivement à créer un problème de modèle économique de tout ça. Et c'est ce que nous avons dans les industries culturelles aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les industries culturelles qui reposent sur, au fond, des biens à connaissance ou des biens à formation, au fur et à mesure qu'elles se numérisent, eh bien, se heurtent à ça. La valeur d'un bien connaissance, pourtant, elle dépend donc de trois facteurs. De l'usage contextuel que le ou les cerveaux font des connaissances codifiées. La valeur d'un livre, vous avez un point de vue idiot sur la valeur d'un livre. Enfin, idiot, au sens où j'entends que c'est considérer un livre comme ces papiers Kleenex, hein, ces mouchoirs Kleenex. C'est-à-dire de considérer que c'est du papier, de l'encre, de la reliure et un certain temps de travail. Ça, c'est la vision de la valeur d'un livre immédiate. Mais Gabriel Tarde, l'autre version, si vous voulez, la version, c'est de considérer le temps de travail qu'il a fallu pour le produire. Et Gabriel Tarde, dès 1880, commençait justement une contestation assez forte de ça, en disant la valeur d'un livre, eh bien, c'est le nombre de gens qui l'ont lu. C'est l'usage innovant que l'œil ou les cerveaux sont capables de faire de cette connaissance codifiée. C'est ça la vraie valeur d'un livre. C'est pas simplement d'ailleurs le bien utilité marginal d'un livre. Alors, la formation de l'usage innovant, de la formation d'une opinion commune au public que l'on peut se faire sur ce bien connaissance. La production de connaissances au moyen de connaissances ne se fait donc plus comme dans le cas du capitalisme industriel au moyen de la réduction du travail vivant et du travail mort, mais à la production de vivant au moyen de vivant. C'est seulement si ce travail productif reste vivant tout au long du cycle productif qu'il peut lui être extorqué ce qui ressemblait, dans le vocabulaire de Marx, à du surtravail. Donc, la valeur d'un bien connaissance dépend du degré de coopération entre les cerveaux vivants réunis en réseau. Et on verra que le capitalisme cognitif s'intéresse prioritairement à cette exploitation particulière de la force inventive, beaucoup plus que de la force de travail. L'appropriation des connaissances tacites ou implicites, et c'est le point là qui va m'amener à quelque chose d'important, requiert une gestion des externalités. En effet, si vous voulez, des tas de choses, un service, l'enseignement, le care dans un hôpital, requiert autre chose que, ça requiert du matériel pour faire un certain nombre de tâches, évidemment un professeur a besoin du parcours, du truc, du vidéoconférence, une infirmière a besoin de l'ensemble de l'appareillage hospitalier, un chirurgien pour opérer a besoin de ça, mais nous savons très bien que la mise en œuvre de ces connaissances, la mise en œuvre de ces éléments matériels, de ces éléments qui peuvent être déjà des connaissances codifiées comme des logiciels, la mise en œuvre des bases de données, des informations, requiert une activité vivante, et cette activité vivante, elle est censée fonctionner tout le temps. Un chirurgien ne fait pas appel à des connaissances qu'il a accumulées une fois, et puis après il exécute son truc. Même quand il met sous routine un certain nombre d'éléments quand il opère, nous savons qu'en permanence, c'est un cerveau qui effectue les choses et qui est capable, par exemple, de réagir à des événements particulièrement importants qui peuvent se passer et dont d'ailleurs la veille peut être aidée par elle-même un machinisme particulier. Bon. Donc ces éléments-là sont importants parce que l'opposition tacite, connaissance tacite ou implicite et connaissance explicite et codifiée est très importante pour notre propos. Alors maintenant, j'en viens à des concepts indispensables, c'est-à-dire les externalités, le complexe. Et là, je vais vous lire une petite fable que j'ai composée, qui sera en tête de mon livre sur la chute. Donc, un paysan et ses enfants vivaient heureux en Normandie. Vergers et vaches dans leur champ leur procuraient de quoi gagner une honnête et paisible vie. En plein milieu, une colline abritait depuis toujours le rucher d'une propriété voisine. L'étrange enclave ne gâtait rien. Leur maison étant installée au loin, et la quarantaine des saints menait la ronde du Saint-Foin, des pommiers et des tournesols, sans que quiconque y vit du vol. C'est qu'en septembre, le maître des abeilles ne manquait jamais sa visite pour offrir à son riverain des gaufres sorties des rayons et un pot de gelée royale. Il recevait, sans qu'il en eût fait réquisite, du calva vieilli au mérin, des framboises pleins et corbeilles, et le dîner surtout qu'on marquait au crayon pour donner à l'année ses étoiles. Le paysan mourut trop tôt. Proto n'est pas ici une formule, il n'avait pas encore préparé sa retraite. Il fallut lui trouver un émule pour les travaux des champs. Sa veuve était forfaite. Le cadet et la fille, aucun d'eux n'était chaud. On se rappela que l'aîné, diplômé en économie, ne détestait pas la campagne. En un rien de temps, il est nommé gérant de l'exploitation, la direct s'il vous plaît, car c'est bien en pays de cocagne, qui requiert de la majesté, que notre jeune gestionnaire, débarqué tout frais de la ville, entend mener révolution dans les méthodes et au civil. Le voilà aussitôt plongé dans les maigres livres de compte de feu son père. Il multiplie les questionnaires, convoque tous ses fournisseurs. Quand il est créancier, les harcèle, mégote sans fin sur les dettes. Sa mère, sa sœur ont un peu honte. Mais comment résister à cet assainisseur qui vérifie chaque parcelle et se rit des histoires alphabètes? Il découvre enfin le ruchier, lui qui n'était jamais sorti plus loin que son nez à la ferme. « Cette enclave, ma sœur, depuis quand et pourquoi, ne faut-il pas y mettre un terme ? À moins qu'elle puisse être amortie. Voyons comment la faire rentrer dans un bilan qui ne peut aller de guingois. » Sa famille essaie de lui rappeler que l'apiculteur attenant est utile et loyal aujourd'hui comme hier. Rien n'y fait, pas même le souvenir du père. Notre nouvel entrepreneur brandit une table d'intrants. De l'argument, il est tout fier. « Je paye, moi, tout ce qui rentre dans mes produits, semences, engrais. » Maïs granulé pour mon lait, ou bien je le tire de mes champs. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, d'où vient le miel que ces insectes font dans ces ruches? Pas de leur antre, pas de ce petit hectare où loge leur secte, mais bien de mes champs, de mes fleurs. Il lui faut me payer fermage sur le nectar qu'elle collecte, et si un tiers ne lui va pas, nous choisirons le métayage. Notre malin, ayant rôdé sur ses parents ce percutant argumentaire, fait appeler l'apiculteur. Un prélude jovial, encore qu'embarrassé, a tôt fait de le conduire là où il est en venir. Au papier qu'il a préparé, il ajoute son commentaire. Les bons comptes font les amis. Pour nous prémunir du malheur, mettons les formes d'un contrat dûment signé des deux côtés. Vos abeilles pourront butiner sur mes champs, à loisir, mais aussi en exclusivité. Il n'y aura point de dédit, vous me verserez tous les ans une part de vos gains. Cela démontrera que nous savons tenir nos comptes et que le foin de vos abeilles est garanti. Le maître des abeilles n'a rien laissé paraître. Il se garde de protester. Simplement, il veut le contrat pour pouvoir mieux l'examiner. Rendez-vous le lendemain est pris. L'industrieux paysan se frotte déjà les mains de ce gain quasiment certain. Mon père était trop lent de sang. Il n'avait pas assez appris les règles de l'économie. Songe-t-il sans apercevoir le large sourire du voisin. La nuit porte conseil. Il a fait son chemin. Il est d'accord pour un contrat. Mais pour ne pas décevoir les parties, vous comme moi, ne faut-il pas tout mesurer? J'en conviens, fait l'autre surpris, s'attendant à voir le litige s'attacher à de l'arpentage. Vous avez fort bien raisonné en comptant à votre avantage les arbres, les fleurs et les prés dont le nectar sur les tiges nourrit les insectes ailés. J'en paierai donc tout net le prix, sans chipoter sur vos calculs. Mais un compte plus juste exige que le travail de mes abeilles, pollinisant sans s'arrêter, soit ajouté à la corbeille. Sans ces petits animalcules, adieu Saint-Foin, luzerne, tournesol, pommiers, poiriers, tilleuls, et mille choses, vaches, les beurs et autres causes, devraient figurer dans la liste. Ne sont-ils pas de vos gains la boussole? La divagation de mes abeilles est sans prix. Mais je ne veux pas de querelle. Un bon tiers de votre revenu total fera très bien la rue Michel. Je vous fais grâce des pétales, des essences sauvages. Signons-nous ce nouveau contrat, j'y suis prêt. Je puis vous régler en liquide. Pour votre part, ne soyez pas timide. J'accepterai une hypothèque bien volontiers sur le domaine. Trinquons à ces prolégomènes. Croyez-vous qu'en bibliothèque, l'un des deux contrats fut compli? À réflexion, fit l'apprenti, penaud, tout bénaise et confus, revenons à notre devis et à nos petits pots rituels. Ne cherchons pas à mettre un prix sur tout ce qui est hors de prix, fit l'apiculteur spirituel. Depuis leur voisinage, ne connaît plus de nuages. Dans la société des humains, les fourmis comme les cigales, aux abeilles font de l'ombrage, ainsi qu'à leurs petites mains. Dans les fables de l'économie, seules les fourmis travaillent, les cigales sont vues en reines des fringales, elles servent d'épouvantail et de patron à nos envies. Leur morale nous dit qu'on ne peut consommer que ce qu'on a tout d'abord épargné. Les abeilles ne vaudraient que leur cire et leur miel. Quant au pollen, quand se nourrissant elles sèment, il ne produirait rien que les fientes du ciel. Nous l'avons vu, c'est à suivre cette leçon que notre paysan fut pris. Combien de doctes à leçons ont ainsi ravagé la ruche de la vie, jetant sur ces nomades l'anathème. La fable du fier Mandeville ne dissipa point ce gâchis. Semer le pollen fut confondu par lui avec une invisible main. Beaucoup de bruit pour rien. Il suffit de rendre aux abeilles ce que fourmis et cigales leur dérobèrent dans nos têtes pour qu'on retrouve les merveilles du monde et son activité subtile. Voilà donc la fable. Alors, c'est, si on traduit très techniquement, ça veut dire qu'au fond, on a des équilibres de Nash et qu'il vaut mieux ne pas se risquer à, quand on a dans des équilibres traditionnels qui incorporent un savoir très complexe, rentrer là-dedans avec la foi du charbonnier et l'économétrie classique des économistes, ça peut donner des véritable désastre. Alors, en réalité, si vous voulez, les externalités, là, ben je vais peut-être, ça va être, je vais les introduire. Vous voyez qu'une des idées qu'on avait là, c'était dans la fable, c'est que, en réalité, le produit du paysan inclut, pour une partie considérable, des externalités. C'est-à-dire que chaque fois que le paysan pense qu'il a fait quelque chose qu'il a produit, quelque chose tout seul, avec ses intrants, son engrais, tout ce qu'il a acheté sur le marché, la terre qui est à lui, en fait, il incorpore des choses. Alors, nous savons qu'il incorpore de l'énergie solaire, ça nous le savons, des réactions, etc. Mais il incorpore aussi de l'activité et de l'activité dite naturelle, et on s'aperçoit en fait qu'elle n'est pas si naturelle que ça, puisque les abeilles sont atteintes d'un syndrome d'effondrement qui est extrêmement préoccupant en ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une externalité? Peut-être que...
Moi, je ne suis pas économiste, je ne sais pas enfin, dire à la différence de Yann, mais c'est un assez vieux concept économique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir son actualité. Et en un sens, la transformation de ce concept. Bon. Alors, je vais vous donner trois exemples très simples pour définir ce qu'est une externalité. Pour les gens qui, comme moi, ne sont pas économistes. Bon, par exemple, quand je mets des fleurs sur mon balcon, ça n'est pas mon intention d'en faire profiter ma voisine d'en face. Et ma voisine d'en face, cependant, en profite. Bon, il y a une externalité positive. En fleurissant mon balcon, pour moi, pour me faire plaisir, je participe à l'effet ville fleurie. Bon. C'est un effet indirect de mon action qui est positif. Inversement, quand je prends ma voiture pour aller en week-end, je ne sais pas, dans les Alpes, donc, ça n'est pas mon intention de polluer, même si de façon infinitésimale, je pollue. Il y a une externalité négative, un effet indirect négatif. Puis un troisième grand type d'externalité, en gros, qui sont les externalités de réseau. Alors, qui sont fascinantes, parce qu'elles prennent des dimensions dans les mondes cognitifs et numériques absolument exponentiels. Une externalité de réseau, c'est quelque chose de très simple aussi, en un sens, c'est le fait que chaque utilisateur, pour son utilité propre, augmente l'utilité marginale de chacun des autres utilisateurs. Alors, je donne un exemple très simple, par exemple, si vous êtes le seul au monde à avoir un téléphone portable, l'utilité que vous aurez du téléphone portable sera nulle. Ça n'a pas d'utilité. Inversement, plus il y a de gens qui ont des téléphones portables ou des connexions à Internet dans le monde, désormais pratiquement tous les terriens sont équipés. Vous savez que dans les pays, y compris en développement, l'équipement en téléphone portable est devenu un outil absolument essentiel de la vie sociale. En un sens, l'utilité marginale de chaque utilisateur augmente. C'est ça un effet de réseau, une externalité de réseau. Bon, alors d'habitude, dans un monde, si vous voulez, un peu classique, on fait une différence entre ce qui est de l'ordre du marchand, c'est-à-dire c'est ce qui tourne en haut. Alors, il y a un échange entre un consommateur et une entreprise monétaire autour d'un produit. Et puis, la question des externalités, c'est-à-dire de tout ce qui a à voir avec les effets indirects, ne relève pas véritablement du marchand. Ça relève de quoi? En général, ça relève de la régulation publique, le problème politique. C'est un peu d'arriver à un équilibre entre les externalités positives et les externalités négatives. Et puis de favoriser les externalités positives. Bon, c'est le monde dans lequel on est habitué à vivre et dans lequel nos cadres... de nos grandes représentations, en gros, sont ancrées. Et puis, de la même façon, on est habitué à faire une différence entre ce qui est de l'ordre du marchand et de l'économie, disons, qui relèverait plutôt de la boucle du haut, et puis ce qui est de l'ordre de la culture, du processus de capitalisation créant la civilisation, etc., qui est plutôt du côté de l'ordre des externalités. Mais le problème, c'est que c'est plus vraiment ça. Bon, alors moi, je dis juste en ayant vu travailler avec beaucoup d'entreprises, notamment sur des questions de valorisation de leurs immatériels et puis de problèmes de marque avec ces entreprises, parce que ce qui se passe quand même depuis quelques années, donc là, je ne fais pas du tout de l'histoire longue comme le faisait Yann, mais juste quelque chose de très, très comme ça. Vous voyez bien que tous ces mots-là sont apparus dans le jargon, disons, du management. Alors, la question du développement soutenable, du développement durable, la question de l'acceptabilité sociale de l'entreprise, c'est des questions qui sont apparues dans les années 90, en gros. La question de l'économie des réseaux, la question de l'économie des produits dérivés, alors pas seulement au sens de Walt Disney qui fait des figurines Rick Mickey, mais des produits dérivés au sens profond, enfin au sens que donne par exemple Chris Anderson, c'est l'économie de long tail, C'est-à-dire l'idée qu'on est passé d'un monde dans lequel il y avait en gros 80% de produits relativement standardisés, relativement des biens d'équipement, hein, et puis 20% de produits dérivés qui étaient des prises de risque de la part des entreprises pour avoir des marchés additionnels, un monde totalement inverse dans lequel on se met à avoir de moins en moins de produits standardisés et de mass market, d'où d'ailleurs les grands problèmes sociologiques de crise de représentation des classes moyennes, et puis de plus en plus de ce qu'il appelle la long tail, hein, c'est-à-dire des produits dérivés qui en fait sont quoi ? Sont des produits de plus en plus inachevés, qui se présentent aux gens sur les marchés comme inachevés. Ils sont bien terminés, bien designés, mais inachevés parce qu'ils permettent aux gens d'inscrire dans le produit sa propre singularité, sa propre subjectivité. Hein, par exemple, quand vous achetez les produits Apple, bon, c'est la tarte à la crème de l'époque de dire ça, vous achetez une infrastructure vide, et puis vous allez beaucoup travailler pour paramétrer vous-même le produit, pour charger votre iPhone d'apps en fonction de vos utilités à vous, etc., etc. C'est-à-dire que vous achetez une forme d'inachèvement que vous survalorisez. Hein? Et quand vous réfléchissez aujourd'hui dans l'économie dans laquelle on est, j'y reviendrai un peu demain dans l'histoire, on est passé en gros d'un monde en forme de poire dans lequel vous aviez quelques produits d'entrée de gamme, beaucoup de produits de masse pour les classes moyennes, et puis quelques produits de luxe pour les occasions un peu exceptionnelles, etc. Ça, c'est plus le monde dans lequel on est du tout. On est dans un monde en forme de sablier, dans lequel vous avez à la base du sablier une impression d'apparente gratuité. Alors, réelle ou pas, etc., c'est des débats d'économistes. Beaucoup de produits low cost, hein, c'est-à-dire que ce sont des produits réduits à leur utilité immédiate, dans lequel les phénomènes de marque, par exemple, marchent de moins en moins bien, hein, notamment évidemment dans l'alimentaire, mais c'est en train d'arriver dans l'automobile aussi, etc., et dans les biens d'équipement. Et puis il n'y a plus de milieu, ou il y a très peu de milieu. Et puis il y a un haut du sablier dans lequel il y a des produits à très forte composante relationnelle. D'ailleurs, ce ne sont pas des produits que vous achetez, ce sont des produits avec lesquels vous contractualisez. C'est la part relative des abonnements et des forfaits dans l'ensemble de vos dépenses. Et puis, je sais que c'est des mutations aussi de très court terme là, dont je parle, mais par exemple le Crédoc l'année dernière a produit une note en disant il y a un signal faible qui est une mutation historique, qui est que, en tout cas à l'échelle française, mais je pense que c'est vrai dans tous les pays, pour la première fois, le sentiment de dépenses contraintes, les accès numériques sont passés devant l'alimentaire. Hein, et il n'y a pas de précédent historique à ça. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que ça veut dire basiquement ? Si les gens ont des problèmes de budget, ils veulent bien couper sur tout, même sur l'alimentaire désormais, mais ce qu'ils veulent absolument garder, c'est leur abonnement au téléphone portable ou leur accès à Internet, qui devient plus important que l'alimentaire. Donc, ce qui n'est pas dans le sens un peu de ce que dit Yann, mais si vous voulez, dans un tout autre monde que celui de la consommation. Et puis sont apparus aussi, je vais très vite, les modèles. Alors d'habitude, on classe les entreprises soit en business to business, soit business to consumer. Et puis, vous voyez bien que la subtilité désormais et l'obsession de toutes les directions du marketing, c'est de faire comme si leur marque était en fait le résultat d'un customer to customer, d'un C2C, hein, c'est-à-dire comme si le C2C était premier. Hein, c'est-à-dire le problème des marques, ça devient de moins en moins d'apparaître comme des autorités institutionnelles, mais de plus en plus comme, ou en tout cas de mimer le fait qu'elles sont la résultante d'une forme collaborative ou de club d'amateurs, par exemple, qui se constituerait autour de la marque. Hein. Ah, évidemment, il y en a pas. Ça marche plus ou moins bien. En général, ça ne marche pas d'ailleurs. Parce que et puis il y a des questions générationnelles, à mon avis, très importantes. Mais bon, vous voyez que quand même, dans cette histoire-là, la marque C2C, en un sens, la plus emblématique, c'est une marque qui, justement, n'a pas de réalité, c'est-à-dire qui est blanche, c'est la page de Google. Hein, la page de Google, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de rubricage, il n'y a pas de ligne éditoriale, c'est parfaitement blanc. Hein.
Parce que justement, c'est un peu le paroxysme de ça. Hein.
Sachant que, alors
on parlera demain, parce que moi je commence mon intervention demain par ça. Pour moi, le seul problème, hein, qui est la question qu'on se pose avec Yann, et qu'il faut poser à Yann sur cette histoire de Covid, c'est aujourd'hui, on arrive au résultat suivant. Google, c'est une entreprise qui a une capitalisation boursière de 180 milliards de dollars au cours d'aujourd'hui, mars 2010. Mais la question que je pose, sûrement vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, il y a combien de salariés chez Google ? C'est-à-dire, il y a combien de gens sur Terre qui, chaque mois, reçoivent un bulletin de paye Google ? Il y a combien de personnes ? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, 180 milliards de dollars, la plus grosse capitalisation boursière au monde, c'est Exxon, Exxon, le pétrolier, c'est à peu près 400 milliards hein, de dollars. Donc, Google, c'est presque la moitié. Ah, il y a combien de salariés chez Google ? Il y en a moins de 20 000. Hein ? En fait, il y en a 18 000. Bon, alors 18 000 salariés. Et pourquoi il y a 18 000 salariés ? Ben, pour la raison qu'expliquait Yann et qu'on va continuer de développer, c'est-à-dire le fait qu'en un sens, il n'y a plus aucun sens à faire la différence entre le fait que, si vous voulez, on travaille tous pour Google. Quoi, hein ? C'est-à-dire que Google, c'est une espèce d'immense externalité de réseau et que on en est tous très contents, je suis ravi d'utiliser Google, c'est très utile, mais à chaque fois qu'on l'utilise, on participe de façon infinitésimale à l'amélioration du ranking de résultats des pages de recherche de Google. On fait également fonctionner AdWords, hein, qui est la machine à cash de Google, et donc, en un sens, il n'y a plus de différence entre le producteur et l'utilisateur.
Pour donner un ordre de grandeur, c'est 16 millions de clics par seconde. Donc Google emploie 19 000 personnes, mais sa grande capacité, c'est de faire travailler 16 millions de cliqueurs par seconde. Oui.
Depuis cette semaine, Facebook est devenu...
Oui, mais...
Donc mais ça montre bien aussi que c'est du contenu qui est généré par les utilisateurs qui devient important. Et donc, c'est même pas les gens... Je trouve ça un exemple encore plus
parlant. Oui, il faudrait pas appeler ça site aussi, il faudrait appeler ça you to you. Vous avez raison, parce que les gens ne se visent pas forcément comme consommateurs. Ouais. Et c'est tout le paradoxe des marques aujourd'hui qui essayent de s'ajuster à ça et qui hésitent parce que, en un sens, c'est des consumers, mais en même temps, c'est des users, quoi. Et donc, il y a cette hésitation. Hein.
Bon. Oui, mais c'est les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Gratuits, fournisseurs de services gratuits considérables, sont effectivement les parties sont l'aile marchande du capitalisme cognitif. Peut-être qu'on va poursuivre, parce que je voudrais vraiment poursuivre. Bon, alors, externalités, elles sont complexes, parce que le schéma qui est là, vous avez chaque transaction qui donne éventuellement un résultat non prévu ou non enregistré dans la comptabilité comme négatif ou positif. Négatif si c'est une externalité négative, positif si c'est une positive, mais vous pouvez avoir la même transaction qui va donner des externalités positives, des externalités négatives auprès d'agents différents, etc. C'est-à-dire que très rapidement, vous avez un tableau général des interactions et des externalités qui est fabuleusement dense. Deuxième idée très importante sur les externalités complexes, c'est leur poids. Il faut comprendre que maintenant, au fur et à mesure qu'on est dans des économies de l'interaction, de la complexité, les phénomènes d'externalité que l'économie traditionnelle, assez frustre, assez primitive, était encore celle du capitalisme industriel, sauf dans sa sophistication de processus chimiques, etc. Mais globalement, il était d'une brutalité et d'une bêtise à l'égard du complexe énorme. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas le complexe. Il le réduisait à du compliqué, à du simple. Bien. Eh bien, quand vous avez affaire à ce complexe, il faut bien vous dire que ce que vous avez, c'est que vous avez de plus en plus une relation entre les externalités et la partie apparente de l'économie qui est la même que celle que vous avez dans un iceberg entre la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que grosso modo, on peut compter que les trois quarts des externalités, si vous voulez, les externalités constituent le trois quarts du sujet même de l'économie. Si l'économie faisait attention à ce qui se passe en dehors de ce qu'elle mesure du point de vue marchand.
Alors moi, je voudrais juste compléter très rapidement ce que dit Yann sur le problème des mutations comptables et financières, notamment des années 90, donc ils m'ont beaucoup passionné. Bon, en un sens, la différence qu'on vient d'établir là, toute simple, hein, simple entre qu'est-ce que c'est la différence entre le compliqué et le complexe. Alors, le complexe, en un sens, c'est quand le tout n'est pas réductible à la somme des parties. Quand le tout n'est pas réductible à la somme des parties, on est dans du complexe. Alors que quand le tout peut être résolu ou réduit à une somme de parties, on est dans du compliqué. Bon. Mais pourquoi je vous dis ça? Ben parce que c'est un des grands problèmes des financiers. Il y a sûrement plein de financiers dans la salle, je ne sais pas. C'est ça. Hein, c'est, quand ils regardent une entreprise, ils se demandent tout le temps, est-ce que l'entreprise comme un tout est supérieur ou égal à la somme de ses parties. Hein? Et ce phénomène-là, en fait, c'est ce que les financiers, il y a un mot pour ça, hein, appellent un goodwill. Un goodwill. Hein? Il y a un goodwill quand there is more in the whole than in the sum of the parts, comme ils disent de façon figée, c'est une expression toute faite. Bon. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de goodwill en circulation. Hein? Vous regardez le point USBF 250, vous additionnez les actifs immatériels des entreprises plus les goodwill, c'est-à-dire quoi? Parce que dans le marché des actifs d'entreprise, telle entreprise a accepté de surpayer par rapport à la valeur comptable d'une entreprise pour pouvoir l'acquérir, hein, et vous arrivez à des taux qui sont supérieurs à 100% des fonds propres. Hein, donc, largement. Et puis, selon les secteurs d'activité, vous avez même 140, 150, 170, etc. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que, après, je redonne la parole à elle, parce qu'on est au plein cœur de cette question des externalités. Au plein cœur, quoi. Parce que, d'habitude, quand on fait de la comptabilité classique ou du management classique, ou même de la stratégie d'entreprise classique, qu'est-ce qu'on dit? On dit, en fait, je vais faire apparaître... pour rendre compte de la sur-valeur, hein, c'est-à-dire c'est ce tout qui n'est pas réductible à la somme des parties, je vais faire apparaître quoi? Je vais faire apparaître le capital marque, le capital humain, le capital confiance, le capital organisationnel, et puis surtout, parce que ça c'est un peu pour épater, c'est un peu du verbiage et de la rhétorique de gouvernance, hein, et puis surtout la valeur du futur, hein, c'est-à-dire la valeur des convergences futures, entre le modèle économique que j'ai et puis d'autres, des formes d'utilité nouvelles. Puis en général, quand on se pose un peu trop la question du futur, ça crée ce qu'on appelle une bulle. Il y a de l'Internet, il y a maintenant la bulle verte, etc. Bon. Mais pourquoi je dis ça? Mais parce que d'habitude, si vous voulez, dans tous ces métiers-là, de la comptabilité à la stratégie d'entreprise et à la finance, quand on regarde les entreprises, on essaye d'imputer les choses à des facteurs internes à l'entreprise. Raison pour laquelle on appelle ça capital. C'est-à-dire on crée des nouveaux types de capitaux et on émet des nouveaux types de capitaux. Capital marque, capital humain, capital ceci, capital cela. Alors qu'en fait, ce qui fait qu'il y a cette explosion des capitaux immatériels, c'est beaucoup la capacité qu'a l'entreprise à faire quoi? Pas tellement depuis son sein à elle, à créer ses capitaux, mais plus à être dans une position de captation d'externalité. Alors, tous les gens qui sont familiers de l'entrepreneuriat sur Internet le savent. Hein, quand vous êtes un bon créateur de start-up, votre problème, ça n'est pas du tout d'inventer un modèle économique parfaitement original ou un nouveau browser. Votre problème, c'est de capter des flux, mais des flux qui sont déjà existants. Hein, je vous prends une image toute simple, moi, parce que je trouve qu'elle est parlante. Bon, par exemple, un surfeur. Le problème du surfeur, c'est pas du tout de créer la vague. Il ne cherche pas à créer la vague. Il cherche juste à capter la vague. Hein? C'est tout ce qu'il fait. Bon, et ben, en un sens, c'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Les grands problèmes qu'il y a eu sur les normes comptables et sur la relation entre comptabilité et finance, on peut les lire peut-être comme ça. C'est-à-dire... ça tourne beaucoup autour d'un débat implicite sur la place des externalités.
Okay. Donc, je poursuis
Alors, externalité 1, externalité 2, si vous voulez, on va appeler externalité 1 les externalités qui sont codifiables et internalisables dans le marché par le calcul économique. Par exemple, quand les biens publics fonctionnent en mettant à disposition des gens, des services, des biens qui ont un coût, qui sont produits économiquement, que nous savons produire, qui n'ont pas les mêmes coûts, qui ne fonctionnent pas à partir simplement du marché ou exclusivement du marché, mais qu'on arrive grosso modo à faire rentrer dans la comptabilité nationale. Ça a été d'ailleurs lent, hein. Ça a été très lent. Avant la réforme de 1976 en France, énormément de services ne rentraient pas dans la comptabilité nationale, et dans la comptabilité soviétique jusqu'à l'effondrement, les services financiers n'étaient pas, ne faisaient pas partie du PIB. Bon. Maintenant, externalité 2, c'est quoi? Mais externalité 2, ça va être des externalités qu'on ne peut pas, soit parce que techniquement c'est impossible dans l'état actuel de nos connaissances, de notre science ou du développement de l'économie, soit parce qu'on ne veut pas intégrer dans un calcul économique. Je reprends mon fable. Vous voyez bien quelle est la difficulté d'intégrer la pollinisation dans un calcul économique. C'est sa valeur extravagante en termes de valeur économique par rapport aux valeurs économiques de marché. Notre paysan qui essayait de faire compter, faire payer l'apiculteur, il allait se retrouver devoir à l'apiculteur la totalité de sa propriété en 3 ans. Puisque chaque année, la pollinisation représente à peu près, là j'avais dit de le chiffre comme ça, à peu près un tiers du produit global de la ferme, ce qui est colossal. Bien. D'autre part, il y a des... aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, décréter que la biosphère, c'est pas grave, vous entendez ça chez des allègres quelconques, qui vous disent c'est pas grave le problème, il y a eu des problèmes, mais enfin l'humanité sait y faire face, de toute façon la science trouvera une solution, et on trouvera des solutions de remplacement. Et bien, comme disaient les manifestants de Copenhague, pour la biosphère, il n'y a pas de plan B. Tant qu'on n'a pas une planète, une exoplanète, avec un calcul du transfert avec une arche de Noé de, je sais pas, 1 milliard ou 100 000 ou 40 familles qui transporteraient l'humanité ailleurs, il n'y a pas de prix de la biosphère. Elle est sans prix, au sens strict du terme, c'est-à-dire elle est ce qui est le plus élevé qui permet toute vie et ce qui n'a absolument pas de prix, c'est un non-sens de lui coller un prix. Et vous avez des décisions, ça c'est des décisions politiques. Vous avez des décisions politiques aujourd'hui, par exemple, cloner l'humain fait partie de l'externalité 2. Parce qu'il y a une décision humaine qui est qu'on a décidé une fois pour toutes, hein, et c'est à peu près, les partagés à peu près, les Raéliens ont compris que quand ils essaieraient de le faire, il y aurait quelques problèmes. Nous avons décidé que pour l'instant, dans l'état actuel, nous ne clonions pas l'humain. Peut-être pour des raisons techniques, parce que les cellules ont l'âge, à propos de la brebis de lit, vous savez qu'on arrive à éterniser l'humain, mais pas à l'immortaliser au sens de lui donner la jeunesse, c'est-à-dire que les cellules clonées ont l'âge des cellules, etc., et elles vieillissent avec un temps astronomique, donc en fait, ça ne résout pas le problème de l'immortalité, ça ne résout pas le problème de la jeunesse, ça résout le problème simplement d'une reproduction qui n'est pas celle du vivant. Mais en tout cas, externalité 2, c'est ça. Alors, maintenant, si vous voulez, je vais arriver à glisser de immatériel 1 à immatériel 2. Alors, c'est un tableau un peu compliqué, mais je veux surtout m'intéresser à quoi. Si vous mettez en ligne là-haut, en colonne, je veux dire, production de biens immatériels, biens matériels en bas, production, enfin la première colonne de gauche, immatériel 1 et immatériel 2. Si vous regardez ensuite les formes dominantes de combinaison. Et si vous mettez en ligne la production marchande, la production non marchande prise en compte, c'est-à-dire externalité 1, la production non saisie dans la comptabilité actuelle, et qui est externalité 2. Et si vous regardez les formes prédominantes du bien, vous voyez bien que nous sommes en train de glisser, si je prends ma dernière colonne, forme prédominante du bien économique, du produit au procédé et processus, et du procédé-processus au méta-processus, ou aux conditions de possibilité de tout procédé, de tout processus. Si vous prenez maintenant la colonne production marchande, vous voyez très bien que dans la production marchande, on glisse du bien divisable, excluable et rivaux, à des connaissances codifiées, à des données d'information couvertes par des droits de propriété intellectuelle, brevets, droits d'auteur, etc. Ces immatériels, hein, commencent à être complètement relégués, et si vous avez suivi ce que je vous ai dit sur la numérisation, c'est évident que ça, c'est du codifié. Donc ce codifié se dévalorise au fur et à mesure qu'il se reproduit à une très grande échelle, qu'il est très difficile d'en protéger la valeur marchande et qu'en fait il se banalise, au profit de quoi ? Au profit du matériel 2, c'est-à-dire les 3 C, ce que j'appelle connaissance, care et confiance, c'est-à-dire l'interprétation, la contextualisation, les connaissances implicites, etc., qui sont mesurées par la création et la fidélisation d'un public, et dont la marque et les réputations, c'est très intéressant, sont de plus en plus l'apanage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avez un déclin des droits de propriété classiques de type brevet et droits d'auteur, vous avez l'apparition, pour suppléer à ça, de la marque, des partenariats entre des partenaires qui ont un grand coût de rupture, c'est-à-dire que vous ouvrez un partenariat, ce partenariat crée quelque chose qui est plus important pour vous que ce que donnerait un accord passant par le marché, la vente de brevets ou de licences. Et ça, par exemple, les très grandes firmes sont en train de plus en plus de glisser au partenariat entre des marques puissantes plutôt que de rester enfermées dans des questions de gestion de droits de propriété intellectuelle dont la mise en valeur, la mise en œuvre coûte de plus en plus cher et pose des tas de problèmes. Elle n'a d'ailleurs souvent de fonction que pour donner un prix dans les actifs, dans la mesure des actifs, à des choses qui n'ont aucune valeur d'application industrielle, c'est-à-dire qu'on mentionne que le procès de Sony contre Kodak, il y a eu à ce moment-là émission d'évaluation. C'est-à-dire que Kodak a dit à Sony, vous m'avez volé tel brevet, ça me coûte tant de milliards. Et pouf, cette invocation, alors après, on va au procès, on ne va pas au procès, mais même quand on va au compromis, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs, reste la trace que là, on a dit, ah, ces brevets valaient tant de milliards. Alors que personne n'a constaté que ces brevets avaient produit tant de milliards. Pour vous donner une idée, le CNRS a 12 000 brevets en France. Il en commercialise à peu près 80 sur les 12 000. Et sur les 80, il y en a 10 ou moins de 10 qui lui rapportent 80% des recettes. Hein, pour mémoire, IBM a un portefeuille de 15 000 brevets qui lui rapporte 3 milliards par an. À peu près, de dollars. Bon, alors, si vous regardez la production non marchande prise en charge d'externalité, vous avez les problèmes de reproduction de la biosphère de plus en plus prise en compte. Nous sommes à l'âge écologique 1, où nous commençons à nous apercevoir qu'il va falloir reproduire la biosphère. On commence à s'en apercevoir, et ça coûte très cher, hein, ça va coûter bonbon. Du côté des immatériels de type 1, nous avons un équipement de la connaissance de degré 0, c'est-à-dire... les investissements du tuyau pour faire marcher le réseau. Et puis vous avez les équipements de la connaissance de degré 2 qui sont des équipements spécifiques qui prévoient par exemple une interaction. C'est la différence entre le web 2.0 par rapport au web 1.0 qui est simplement de l'exposition de contenu numérique. Sans interaction et sans compréhension de cette interaction par le numérique. C'est-à-dire les sites maintenant intelligents sont des sites qui effectivement enregistrent comme Google ce qui est téléchargé, la fréquence des téléchargements, les interactions que ça dessine, et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mappent en temps réel le réseau en train de se faire, ce que j'appelle l'activité coralisatrice des êtres humains, qui, comme les coraux, créent quelque chose qui est supérieur, strictement supérieur à leur propre existence, c'est-à-dire ils créent des chenaux qui après vont servir d'infrastructure à d'autres formes de vie. Alors, enfin, sur la ligne, vous voyez bien que la ligne qui m'intéresse, c'est la ligne verte, c'est-à-dire les immatériels 2. Là, on est dans les conditions de survie de la biosphère. C'est infiniment plus compliqué de parler des conditions de survie de la biosphère globale, parce que là, on parle du réchauffement climatique, on parle de l'érosion des sols, on parle des problèmes de l'eau, que de s'occuper simplement de, par exemple, pallier à tel ou tel endroit l'apparition de déséquilibres, d'érosion, etc., hein, même dans les coraux. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le croisement, c'est-à-dire immatériel 2 et externalité 2. Et là, on a l'intelligence collective, le relationnel maîtrisé, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui apparaît dans lequel les méta-processus font l'objet non seulement d'une, si vous voulez, d'une prise en compte mais d'une prise en compte maîtrisée. C'est la fin de ma fable, où à la fin, quand les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas mesurer les externalités, il y avait des choses qu'on ne peut pas mettre dans le calcul économique, alors on s'en tient à une comptabilité symbolique, qui prend en compte, mais qui n'entend pas mesurer. C'est la même chose qui s'est passée pour le travail domestique. Quand on a dit on va mesurer le travail d'élevage des femmes, des enfants, on sait très bien que si le travail, la prestation domestique faite par les femmes, qui continue d'ailleurs d'être faite très largement, se mesure à des substitutions sur le marché, etc., on sait qu'est-ce que ça représente, et ça représente déjà beaucoup. Hein, les calculs de Annie Fouquet donnaient en 1975, à peu près, il aurait fallu verser aux femmes l'équivalent de deux fois le SMIC. Ça signifie, c'est comme la pollinisation, c'est, on change d'échelle brutalement, on double le PIB ou on le triple, parce qu'on devrait verser, bon, donc c'est colossal. Bon, et néanmoins là, je ne compte pour rien l'activité essentielle qui reste celle des femmes aussi, beaucoup plus que celle de la famille avec le père, qui est l'activité d'élevage des enfants, au sens d'élevage, au sens noble que donnent les démographes à ça. C'est-à-dire qu'un petit homme qui n'a pas été élevé comme ça, il a de fortes chances de coûter très cher à la psychanalyse et voire à l'institution pénitentiaire dans le restant de sa vie. Donc ce sont, si vous voulez, c'est ce genre de choses qui est intéressant. Parce que ces croisements d'immatériel 2 et d'externalité 2 situent les zones frontières où il se passe des choses en ce moment et où il y a des enjeux d'ailleurs considérables de liberté publique. Parce que, évidemment, ce relationnel et ces réseaux sociaux dont nous parlions à l'instant, quand vous commencez à maîtriser l'interrelationnel et qu'il y a des machines qui enregistrent tout ça, vous imaginez ce que ça veut dire du point de vue de la privacy, à quel point c'est important. Et là, la CNIL a beaucoup de soucis à se faire. À tel point que, si vous voulez, moi je dis toujours aux étudiants, nous avons mis 4 ou 5 siècles à faire que la correspondance entre personnes privées soit protégée par le sceau du secret. Avant, c'était un privilège seulement des seigneurs qui avaient un sceau. Tout le reste était ouvert. Hein. Eh bien, il a fallu 4 ou 5 siècles pour que ouvrir une lettre par la poste, ça vaille révocation pour un postier. Immédiat. Dans le numérique, nous flottons dans un truc qui est inimaginable, c'est-à-dire que les administrateurs de réseau lisent la totalité de vos correspondances. En totalité. Non seulement imputable à la personne, à la machine, et les contenus. Alors que, par exemple, un cryptage en 3 morceaux, qui ferait que celui qui lit les contenus n'a ni les machines, ni l'adresse, ni les noms, ou celui qui a les noms n'a ni les contenus, ni la machine, ou celui qui a la machine n'a ni les noms, ni les contenus, réglerait le problème. Mais vous voyez qu'on n'a du pas sur la pointe du point de vue des libertés publiques dans le domaine du numérique. Mais ça, c'est encore l'admission. Alors, maintenant, est-ce que c'est ça, immatériel de bon, ça, je l'ai dit, donc je vais sauter, hein, on va sauter pour aller plus vite, parce que de l'exploitation de degré 2, j'en ai parlé. Alors, l'accumulation du capital intellectuel, son instabilité. Je vous ai déjà dit qu'il était difficile de codifier le capital intellectuel. Si vous le codifiez, je dirais, il cesse d'être vivant. Et si vous tentez de le codifier, vous tuez la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enjoindre aux gens, par exemple, d'être créatifs. Il y a des problèmes extrêmement graves qui amènent, par exemple, beaucoup d'entreprises, puisque, contraire, le muscle, c'est quelque chose qui s'arrête, qui dort. Donc vous avez un temps de travail, l'entreprise est intéressée par le moment où les gens sont performants, et puis quand ils sont flagada, eh ben, ils les envoient se coucher. Bon. Le problème du cerveau, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Et que vous pouvez lui coller des tâches pour le week-end, que vous voulez. D'ailleurs, les étudiants travaillent tout le temps. D'ailleurs, tout le monde travaille tout le temps. Pense tout le temps, etc. Le résultat des cours, c'est quoi? C'est que tout ce qui vise à accumuler du capital intellectuel exerce une pression tout à fait nouvelle sur les gens. C'est-à-dire que la relation de travail devient une relation particulièrement anxiogène. Elle est très forte. Et ce n'est pas le rythme de travail, au sens où vous ne pouvez pas le découper en temps de travail. Parce que le cerveau, il n'y a qu'à penser au rêve, le cerveau a des temporalités intensives, suivies d'extensives, et vous ne pouvez pas réduire le temps cérébral, hein, contrairement à ce que fait M. Lelay, à une heure de temps de travail. Quand vous dormez, vous avez 20 minutes, vous avez 3 cycles de 20 minutes, qui n'ont rien à voir entre eux. Eh bien, le temps de travail, quand vous donnez à quelqu'un à faire des tâches intellectuelles, c'est un temps qui est très, très difficilement contrôlable. Et du coup, toutes les précautions qui ont été construites en un siècle ou deux siècles pour éviter que les salariés soient pressés jusqu'au trognon, eh bien, on sautait, parce qu'on peut réduire le temps de travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réduise le temps de travail des manuels? Oui, les manuels, ils en profitent. Mais demandez aux étudiants ce qu'ils pensent du temps de travail à l'université. Demandez aux CAPSUP ce qu'ils pensent du temps de travail. Demandez à ce que j'appelle maintenant, moi, le gomnitariat, que ce soit la creative class, c'est-à-dire la partie élevée, ou que ce soit ceux qui sont au contraire dans la partie très prolétarisée, eh bien, je peux vous garantir que ce temps est un temps extrêmement prenant, et je pense que l'usure nerveuse, l'énervement, etc., autrement dit que le cas d'Orange n'est pas lié à Orange. Le cas d'Orange, il est généralisé, et il y a certainement des taux de suicide, on ne les a pas vus, mais il y a un sociologue qui a d'ailleurs fait scandale en France, qui s'appelle Padiolo, il a dit, vous savez, le taux de suicide d'Orange n'est pas supérieur à celui probablement moyen de toutes les entreprises françaises. Simplement, ça ne se voit pas. Et c'est les plateformes d'appel et la forme du travail d'Orange qu'il a exposé à une visibilité, c'est-à-dire que là, les gens se sont dit, bon, on va peut-être pouvoir parler de nous, faire parler des problèmes de conditions d'hygiène et de sécurité, ce fameux pan où les salariés ont pas mal de choses à dire, à cause de l'exposition particulière de cet opérateur. Mais pour ce qui est de la pression, partout où vous avez du travail immatériel, vous avez cette forme. Et vous avez cette forme intrusive que pour, si vous voulez s'assurer des fonctionnements du cerveau bien, on essaye de prendre le contrôle des corps. On essaye, c'est-à-dire qu'il y a une intrusion extrêmement forte. Alors, mon dernier point, c'est la finance comme gouvernance de l'appropriation des externalités. C'est-à-dire que, si vous réfléchissez bien, et ça, Antoine l'a très bien dit tout à l'heure, si vous réfléchissez bien qu'il y a les pans entiers du fonctionnement réel de l'économie qui se passent sous le niveau de la mer, c'est-à-dire sous la partie énergie de l'iceberg, et que tout ce qui s'y passe est très important, et que ça conditionne largement la flottaison de l'iceberg et la quantité de choses qui est marchandisable. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, vous voyez bien que quelqu'un qui va s'intéresser au futur, à la performance globale, à une vision outcome de l'ensemble, à l'entreprise qui se projette dans le temps, à un collectif de travail et pas à monsieur un tel ou monsieur un là, ou la vision traditionnelle des RH, il va s'intéresser forcément à quoi? Il va s'intéresser à ces externalités. Et le seul moyen que nous avons de les prendre en compte, et bien c'est paradoxalement, aussi scandaleux que ce soit, c'est la finance. C'est comme si vous voulez, la finance, dans la relation entre mon apiculteur et mon agriculteur, avait très bien compris que l'apiculteur qui n'a pas... l'apiculteur qui n'a pas d'éléments financiers à présenter, il n'a pas beaucoup de capital, l'agriculteur. Ce qui rapporte en termes de produits marchands, c'est ridicule. Et bien qu'il y ait quelqu'un qui le finance, car il aura compris qu'à ce moment-là, la pollinisation est un facteur. Bon, alors, je vais en terminer simplement par la pollinisation et les abeilles, mais ça, c'est le développement classique de ma fable. Qu'est-ce que font les abeilles? Ben, pour les économistes classiques, elles produisent du miel et de la cire. Qu'est-ce que font en réalité les abeilles? Elles pollinisent. Ce qui m'intéresse du point de vue de l'économie, c'est que la sphère, j'ai fait des calculs qui peuvent être contestables. Voilà, on peut couper la poire en toujours. On peut toujours discuter hein, des évaluations des calculs, mais grosso modo, le rapport entre la sphère de la production marchande des abeilles, c'est-à-dire la valeur des abeilles en tant qu'elles produisent du miel et de la cire, si c'est 1, là en l'occurrence 100 millions de dollars, aux États-Unis annuellement, c'est 35 milliards de dollars annuels d'effets de pollinisation, que je mesure tout simplement par le fait que je supprime les abeilles, et là j'ai une chute d'à peu près 35 milliards de PIB.
Vous avez d'ailleurs une industrie nouvelle qui est apparue, qui est celle des ruches itinérantes, non pas pour produire du miel, mais pour produire de la pollinisation.
Les 500 000 apiculteurs américains ont cessé de commercialiser le miel, très très peu. Mais en fait, ils tirent l'essentiel de leurs revenus de la location de leurs essaims qui se promènent dans des cultures. Et pour certaines cultures céréalières, qui sont pollinisées, parce que beaucoup de cultures céréalières sont pollinisées par le vent, mais pour certaines cultures céréalières, comme par exemple le colza, le prix payé par l'agriculteur au pollinisateur, c'est 30% de la valeur de la récolte. Donc là, on retrouve, vous savez, mes chiffres que je vous ai donnés. Donc vous voyez bien que, bon, alors des abeilles et des hommes, vous voyez bien qu'est-ce que je dis, mon propos est, probablement dans une société de connaissances, d'abondance et d'interrelations appuyées sur le numérique, nous sommes en plein dans une production par pollinisation, et c'est là que se retrouve la véritable richesse. Alors, je vais... Bon, ça, c'est un dessin des choses, je laisse tomber. Donc, société interactive en réseau numérique, reliée entre autres par le réseau des réseaux, c'est une économie de contribution beaucoup plus qu'une économie d'échange. Une économie de contribution, c'est une économie de pollinisation qui n'est pas simplement une économie de dons. Les abeilles, elles ne donnent pas de la pollinisation. Les abeilles, pour bouffer, pour alimenter, alimenter leurs petits, elles, il se trouve qu'en faisant ça, elles pollinisent. Donc vous voyez, ça n'est pas, elles se mettent sur le pont machin et elles offrent leur, des dons comme ça gratuits. C'est la pollinisation, c'est quelque chose qui est profondément inséré dans l'activité productive et ce n'est pas quelque chose, un superflu, machin. Bon, en plus, sans compter que dans le cas de la pollinisation, vous avez posé que vous n'y a un incommensurable. Alors que dans l'économie du don, vous passez votre temps à dire « je suis contre le marché », mais vous faites la même chose que le marché. C'est comme quand vous rentrez dans un machin du Club Med où il y a des colliers, il n'y a plus de monnaie, mais vous passez votre temps à compter le nombre de colliers qui vous restent. Ce n'est pas parce que dans un casino, vous n'avez pas d'argent et qu'on vous file des jetons que la valeur du jeton a disparu. Donc là, vous êtes dans une économie qui est totalement d'échange. Vous n'êtes pas dans une économie de contribution. Alors là, j'ai presque fini, mais là, je passe sur l'économie de contribution parce que c'est trop. Donc une économie correspondant à un système complexe dynamique. Alors, les problèmes, je laisse ça aussi. Je voudrais revenir à la fin de choses. Une autre économie, une écolo-économie, une api-économie. Donc, c'est la nomique ou le nomos de l'oikos et de tous les actifs de l'oikos. Ce qui reforge, ce qui amène à reforger une comptabilité incluant les externalités sans se borner à les internaliser. Certaines externalités, là ça a complètement déconné, excusez-moi, j'ai fait n'importe comment, peuvent être internalisées, d'autres pas techniquement, d'autres un peu techniques. Alors, conséquence, application à la crise financière, vous allez voir. C'est ça la chose qui m'intéresse. Totalement à gauche, vous avez l'économie d'endettement classique, c'est-à-dire celle qui est le fruit conjugué de l'activité des banquiers génois découverte au XIVe siècle et de celle de l'État keynésien. Grosso modo, si vous avez la richesse qui est figurée là, sous le dynamisme, sous la barre, vous allez avoir, mettons, une création de j'allais dire, par rapport à cette richesse, vous allez avoir une possibilité de créer de la liquidité qui va être fonction du taux de rotation de la monnaie, de la confiance des agents, etc. Mais disons que vous avez un multiplicand donné, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer indéfiniment de la liquidité. Mais vous pouvez en créer plus que ce qu'on vous disait avant. Parce que ce qu'on vous disait avant, avant les banquiers génois et les assureurs de bateaux, on disait ce que vous avez là, c'est exactement ce que je peux vous donner et pas plus. Vous avez des projets sur le futur, je ne vous donne pas plus et je ne peux pas m'agrandir, je ne peux pas augmenter. Et deuxièmement, l'État a rapidement dit et collé sur les banques, leur a collé, vous avez une possibilité, vous avez un diviseur de crédit par rapport au montant de vos dépôts. Point final. Bon. Dans la, si vous prenez ce qui s'est passé dans l'économie, si vous voulez, de la finance d'État, vous avez eu une multiplication, une léviérisation de la monnaie qui est grosso modo, quand vous aviez un fonds propre, vous avez eu entre 5 à 9 de possibilités de léviérisation, c'est-à-dire de création de liquidité. Quand vous regardez la finance de marché, elle a créé, pour un de fonds propres classiques, elle a créé 32 de liquidités. Ce qui amène M. Pascal Salin ce matin dans une tribune du Monde, dans une chose assez comique, à dire qu'en réalité, le capitalisme n'est pas à blâmer. Ce qui est à blâmer, c'est la création indéfinie de crédit par des salariés qui ne sont pas des propriétaires, donc pas des capitalistes, parce que les capitalistes, ils sont prudents, et un capitaliste propriétaire n'engage pas, ne prête à personne. Ça me rappelle quelqu'un que j'ai vu en France qui était un propriétaire viticole extrêmement important, enfin salarié lui chez Procter & Gamble, meilleur des terres, et qui disait c'est con d'Américains, nous on n'a aucun problème en France parce qu'on ne prête qu'aux riches. Donc si vous ne prêtez qu'aux riches, vous n'avez effectivement aucune difficulté, jamais de solvabilité. Bon, et vous savez, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui en France pensent, notamment les petites entreprises, qu'elles n'ont pas accès au crédit parce que les banques ne leur donnent pas l'accès au crédit. Ne leur donne pas parce que les banques sont extrêmement frileuses, elles demandent des contreparties en patrimoine. Mais la finance de marché qui a prêté au Brésil, qui a prêté à la Californie, qui a prêté partout, elle a fait cet usage à 32. Alors si vous regardez ça et vous vous dites, ça s'est cassé la gueule, c'était inéluctable, forcément, il s'agit de diviser maintenant et de revenir à 9. Et là, je vous dis, si on fait ça, là, on est garanti pour 30 ans de dépression, et à côté de quoi, la dépression des années 30, ce ne sera rien du tout. Ce sera du pipi pour les petits chats, parce que les salariés ne se laisseront pas faire d'une part, regardez les Grecs, et d'autre part, je pense que ça pourrait péter du côté de la Chine, et de façon assez virulente. En revanche, et c'est en ça que peut-être mon message rejoindra les optimistes, je sais qu'il y a ici l'association des optimistes, moi j'y crois profondément, je pense qu'en réalité, nous sommes dans une nouvelle économie qui est liée à la pollinisation, à la compréhension de la richesse potentielle que représente la pollinisation, et que si vous regardez ce qu'a fait cette finance de marché, elle a borborygmé, sans comprendre d'ailleurs, l'avènement d'une économie de pollinisation. Et au fond, un ratio de 32 à 350, ça ne gêne pas. C'est tout à fait raisonnable. Autrement dit, conclusion, le vrai problème que nous avons actuellement n'est pas une crise du numérateur, c'est une crise de compréhension de ce qu'est le dénominateur de l'économie. Donc c'est une crise non pas de l'économie, c'est pas une crise économique, c'est pas une crise de l'économie, non verte par rapport à verte, c'est une crise de notre compréhension de l'économique, de ce qu'est l'économique, de ce qu'est la richesse, et donc des mécanismes de captation de valeur, etc., avec des problèmes sérieux que les gens non seulement, si vous voulez, ne sont pas d'accord sur les différents composants de la richesse, c'est-à-dire vous avez des gens qui vont continuer à vous dire la pollinisation, on s'en fout, c'est donné. On n'a pas à s'en occuper. C'est ceux qui considèrent que ce n'est pas très grave que les abeilles soient en train de crever par usage du gaucho, du régent, du cruiser, etc., alors qu'il y a un syndrome d'effondrement des abeilles extrêmement préoccupant. Cela vous dit, c'est pas grave, on ne s'en occupe pas. Donc il y a des gens qui ne croient pas à l'histoire de la pollinisation. Il y a d'autre part des gens qui vont dire, c'est pas important la pollinisation par rapport à d'autres phénomènes, ils vont la réduire. Et il y a des gens qui n'ont aucune confiance ni dans l'économie verte, ni dans la capacité future de s'en tirer. Moyennant quoi, si évidemment vous pensez qu'il n'y a pas 350, mais que finalement il n'y a jamais eu que 1 au numérateur, alors il est évident que 32 sur 1, c'est très 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 préoccupant. Maintenant, les conséquences de politique économique que vous en retirez, ce sont des conséquences à ce moment-là déflationnistes, et ça vise à transformer toute l'Europe en une grève généralisée. On réduit de 30% le salaire des fonctionnaires, on en supprime la moitié. Et c'est l'application des gestions de l'économie de notre apprenti paysan gestionnaire sorti de Dauphine et compagnie, qui a fait beaucoup d'économies financières, pas dans le bon sens des traders, mais dans le sens de l'orthodoxie et de la rigueur. Et là, si vous le laissez faire des choses, ça c'est évident qu'il va détruire les ruches, et il va, du côté des ruches humaines, avoir des effets catastrophiques. Voilà, c'était ça que je voulais vous mettre dans le... Et maintenant, évidemment, j'attends avec intérêt.
Moi, ce qui me paraît intéressant dans l'analyse que fait Yann, c'est le... Vous voyez, parce que le débat sur la finance, en gros, il est souvent posé de la façon suivante. Est-ce que la finance a été trop spéculative ou pas? Elle s'occupe de choses virtuelles qui ne sont pas réelles, etc. Certains journaux... Alors que là, je trouve une compréhension moins naïve du phénomène. Le problème n'est pas tellement, c'est effectivement la question du dénominateur, et la question de la crise actuelle, en fait, c'est la question de savoir s'il y a eu trop ou pas assez de liquidité dans la période qui précédait juste la crise. Quoi. Ce qui n'est pas tout à fait la même question de savoir si c'était spéculatif ou pas. Et ce qui paraît être une question beaucoup plus concrète.
Et après cet exposé assez décapant, je prends le micro. Qui ose ben voilà, monsieur, la première question.
Le virtuel et le réel. Le virtuel est beaucoup plus volatile que le réel. Et un des problèmes de la finance aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine volatilité. Alors, comment allons-nous gérer la volatilité en allant vers plus le virtuel que dans le temps?
La question est tout à fait. Est-ce qu'on la prend tout de suite
en oui, je pense, ou à moins qu'il y en ait
qui soit autour de cette même. Non. Alors, rapidement,
J'allais dire, sur le virtuel, par rapport au réel et sur l'incertitude, vous avez la réponse de Games, qui est le concours de beauté. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est que vous allez non pas déterminer quel est le canon du réel, du virtuel, qui s'écarterait du réel ou pas objectivement, vous allez le régler par un problème d'accord sur, hein, Games dit dans le concours de beauté, de célèbre article de 37, il dit, il y a deux espèces de concours, il y a le concours « Quelle est la plus belle femme du monde ?» et aucune réponse possible, parce qu'il y a autant de goût dans les couleurs et dans la nature et dans les civilisations, hein, la Vénus de Granac n'est pas celle de Botticelli, etc. Et Keynes dit, il y a deuxième système, qui est au fond celui de la spéculation d'ailleurs que vous avez dans les bourses, qui consiste à ouvrir un concours dans lequel celui qui gagne, c'est celui qui anticipe correctement la vie générale. C'est-à-dire, c'est celui, si vous voulez, qui, au fond, propose un canon de la beauté qui va être celui qui sera adopté, celui qui sera proposé par le plus grand nombre de gens. Vous voyez qu'on rejoint là un peu l'utilitarisme de Bentham, etc. Et ça, c'est techniquement, ça se réfère à l'utilisation de la formation de conventions autour d'un prix dans le futur, et ce qui est au fond une des techniques et au fond des dérivés, parce que c'est au fond, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on mesure des accords sur des futurs, sur des prix futurs, des prix du futur. Mais la question qu'il faut poser derrière, si vous voulez, ça c'est le fonctionnement du numérateur. Mais la question qu'il faut poser derrière, c'est celle du dénominateur, c'est-à-dire qu'on stabilise réellement ce virtuel et on le transforme en moyen de liquidité, en levier de fabrication du futur, en donnant au moyen à l'économie actuelle de faire ce qu'il faut pour le futur, dans la mesure où, par exemple, on a des schémas qui sont corrects de, par exemple, de transformation de l'économie en économie verte. Qu'on fait les investissements qu'il faut du côté de la connaissance et des savoirs, parce que nous savons, par exemple, que la maîtrise du complexe de la biosphère et de la noosphère requiert beaucoup plus de connaissances que nous n'en avons et requiert une économie de plus en plus qui investit dans l'immatériel. Ça, ça peut donner du sérieux. En revanche, vous pouvez être sûr que si vous dites actuellement la direction prise par Floppenhag, par le truc du thon récemment, que vous prenez des systèmes de décision dans lesquels la décision est prise à la majorité des États, dont les trois quarts sont achetés purement et simplement par les Japonais à coup de fric, hein, je prends l'exemple du thon rouge, les Japonais sont passés et ont arrosé le Sénégal, un certain nombre d'industries naissantes de la pêche, et ont dit « vous votez contre le truc ». Évidemment, la résolution européenne est tombée dans les choux par 70 voix contre et 43 voix pour. Et bien pour Floppenhag, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on met autant de sérieux à appliquer des choses du Grenelle que ce qu'on en a mis en France, on est vraiment bien parti. Et ça, ça contribue à une crise du dénominateur. Parce que si vous voulez, le ratio qu'il y a dans le futur, c'est au fond de se mettre d'accord sur un futur. Un futur soutenable est la condition fondamentale de toute possibilité d'anticipation économique. Sinon, ce qui se profile, alors comme le nez au milieu du visage, c'est la guerre, la technique de la guerre, destruction de capital, parce qu'on recommence après, la technique de l'inflation, mais pas l'inflation à 4% comme le pense Olivier Blanchard, mais une bonne dose d'inflation à 15 ou 20% qui vous lamine les rentiers, les patrimoines en une bonne dizaine d'années, ou alors la guerre monétaire, on est en plein dedans, dans lequel les capitaux privés arbitrent parce que nous n'avons pas d'euros obligations et que l'Europe ne peut pas faire de déficit budgétaire global et donc elle ne peut pas protéger l'ensemble de la zone euro par des transferts budgétaires, eh bien nous avons là des gens qui jouent sur les différentiels, comme vous le savez, de bons du trésor, des trésors européens. Bon, on est avant la constitution des greenbacks aux États-Unis de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est là dans ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire une zone extrêmement instable où le dollar dégringole, le yuan s'apprécie, l'euro fluctue et commence à être en butte à des fluctuations avec des effets de sortie. Déjà, la livre sterling n'existe plus, si vous voulez. Déjà, elle est dans une zone extrêmement tortueuse et comme vous le savez, la question là, ce que les financiers européens, les Soros et compagnie ont derrière l'idée, c'est qu'en créant une situation de crise, soit ça se résout comme l'éclatement de la zone euro, ce que je ne souhaite pas, parce qu'à ce moment-là, on est rentré dans une situation yougoslave et de guerre serbe, de serbisation de l'ensemble de l'Europe, soit, ah oui, ça j'y crois, ferme comme tout, soit la chose l'emporte, et que ce soit le réalisme allemand désagréable, ou que ce soit le système de la Fourier française qui sans mots, enfin des mots, et puis après un peu la vie de pain, les moulins à vent, mais dans les deux cas, on arrive de toute façon au fait qu'on passe à l'Europe fédérale, avec un vrai budget, avec un vrai déficit, avec l'émission de bons du Trésor, qui en plus résolvent le problème du niveau erratique de l'euro. Car la seule façon de faire baisser l'euro correctement et d'en tirer profit, pas simplement pour les industriels, mais pour tout le monde, c'est de créer d'émettre des bons du Trésor en euros. Et à ce moment-là, les investisseurs internationaux, quand ils ont des problèmes d'arbitrage, de portefeuille et d'instabilité des monnaies, ils modifient la composition euro, dollar, yuan, ce qui va venir très vite. Mais pour ça, il faut qu'on ait des instruments. Et ça, il faut qu'on enterre le traité d'Amsterdam à peine, il est fini. Il faut qu'il y ait de nouvelles institutions, ça s'appelle le processus de fédéralisation qui est rampant. Et il y a très très peu, heureusement, il y a eu en Belgique quelques personnes qui y pensent vraiment, mais vous avez vu la rage qu'ont mis les Anglais et un certain nombre de réactifs confédéralistes attardés, nationalistes, etc., à essayer par toute force de bloquer l'émergence d'un système fédéral. Mais il va arriver, et je pense qu'il va arriver d'autant plus que la crise est violente, sinon nous aurons du 25-35% de chômage. Là, on rigolera.
Moi, juste une très courte remarque, très courte, concernant votre question. Vous voyez, même qu'on met un peu, c'est un peu proposé aussi, une croisée des chemins dans l'organisation du débat public, semble-t-il. Hein. Moi, je le vois comme ça, mais c'est subjectif. C'est, vous avez d'un côté ce qu'on pourrait appeler une très forte et très puissante réaction patrimoniale industrialiste, disons, hein, particulièrement en France, puisque c'est tropisme français de planer, de retourner au convertisme, à la planification.
Et au château de Versailles.
Au château de Versailles. Bon. D'un côté, vous avez cette option-là, et puis avec un discours qui est très très facile à tirer, hein, du type il y a eu trop de produits dérivés. Voilà, il y a eu trop de produits dérivés, c'est de la. C'est vrai dans la consommation, c'est vrai dans nos modes de vie, etc. Donc, il faut arrêter avec les produits dérivés. Il faut revenir aux basics, etc., l'authenticité. Puis, vous voyez bien qu'il y a l'autre option, quoi, qui est un peu diamétralement inverse. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends ce que raconte Yann. Si on pose la question du dénominateur, ce qu'on dit, c'est que non, il y a encore plus d'interrelations à prendre en compte que celle dans laquelle du monde duquel on sort. Mais ces interrelations étaient déjà là, elles étaient relativement implicites, et la puissance de codification et d'encodification de ces interrelations, faute de mieux finalement, c'était la finance. Voilà, mais il y a un peu une croisée des chemins. Moi j'ai l'impression que le débat. Alors, il est très déséquilibré, d'ailleurs, puisque la première option, si vous voulez, elle est très facile politiquement à manier. Hein. Elle est très facile à expliquer.
Hein.
C'est facile de dire, voilà, retourner à l'authenticité, il faut que les financiers redeviennent des comptables. Il faut, voilà.
Il faut séparer les gens de dépôt d'investissement.
Exactement. Et il faut arrêter avec les produits dérivés dans tous les domaines. Elle est une position qui est plus difficile à tenir, à mon avis, mais qui, moi, à mon avis, est beaucoup plus contemporaine. Qui est beaucoup plus contemporaine. Quoi. Qui est un peu celle-là.
Ça veut dire. Juste un point pour finir. Il faut. The timing of the shrew. C'est-à-dire, la finance de marché a fait des découvertes formidables. Le problème, c'est d'apprivoiser. C'est comme la mégère apprivoisée. C'est-à-dire de la reprendre dans ce qu'a fait la finance d'État quand elle a compris le rôle qu'avaient joué les banquiers génois. Hein, vous savez que la finance des rois de France régulièrement coupait la tête de leur ministre des Finances quand il mourait, le successeur coupait la tête du ministre des Finances précédent. Ça se passe aussi dans pas mal de pays. J'ai vu qu'on vient de M. Kim Il-sung vient de le faire en Corée du Nord. Si vous voulez, parce que vous aviez une mécompréhension du rôle du crédit et de la finance. Et on se contentait de temps en temps de faire les poches des banquiers, qu'ils soient juifs ou autre chose, ou italiens, et on les ratiboisait pour remplir les caisses de l'État, ce qui durait d'ailleurs exactement 3 ans, et après il fallait recommencer et réavoir quelqu'un qui vous faisait du crédit, et patali, et patala. Bon, aujourd'hui, la finance, c'est comme les derniers généraux, à la veille de la Révolution. Nous avons engagé, la veille de la Révolution, la France avait engagé aux fermiers généraux pour avoir de quoi fonctionner son budget tous les jours, une situation qui était 5 années, elle avait engagé aux fermiers généraux, la 5e année, c'est-à-dire 1794, les recettes fiscales de 1794. Vous voyez que c'est à peu près, en prenant les engagements des retraites, ce à quoi nous sommes actuellement, c'est-à-dire ça se balade entre 4,5 et 8 ans, pour la Grèce justement, d'engagement futur. C'est tout à fait tolérable, ça n'a rien d'épouvantable. Bon, gérer d'une certaine façon, ça peut donner la révolution aussi. Hein, ça. Bon. Mais la question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai été très frappé du fait que la Banque de Chine, elle a compris, quand les financiers se sont fait virer, les traders se sont fait virer de Lehman Brothers à Londres et à New York, elle a recruté des gens pour mettre sur pied la Banque de Shanghai. Et en fait, vous savez très bien que les gens qui négocient dans les trésors nationaux en ce moment, les finances, hein, aux États-Unis, il faut faire entrer 3 milliards de dollars par jour pour que la machine du temps de M. Greenspan, pour que ça marche. Bon. Et donc il fallait émettre des bons sans arrêt. Et donc vous avez exactement les mêmes techniques. Donc je pense que l'État aujourd'hui peut comprendre ce qu'a fait la finance et peut utiliser ces techniques pour des choses comme financer le passage à l'économie verte, financer l'économie de la connaissance, alors qu'actuellement, on pédale dans la smoule sur le truc de Lisbonne, parce que les taux d'investissement là-dedans sont nullissimes. En dehors de la Finlande, de la Suède et du Danemark, personne n'a fait les investissements qu'il fallait faire dans le domaine de la recherche, etc. Voilà, maintenant d'autres questions, mais je voulais. C'était une des choses importantes que j'avais.
Je pense que vous mettez un point assez fondamental qui est le rôle de la finance. Moi, j'irai plus loin. Je me pose la question si la finance qui a organisé le modèle de la vieille économie est encore le modèle qui peut organiser la finance de la nouvelle économie. Et vous me parlez du rôle que l'État pourrait jouer en s'inspirant du rôle des banquiers. Moi, je dirais plutôt, qu'est-ce que les participants à la nouvelle économie les acteurs des cercles dans les réseaux peuvent aujourd'hui imaginer comme mode de fonctionnement financier. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a des modèles qui sont occupés d'émerger et qui sont des modèles de la finance et qui ne fonctionneront plus sur les mêmes paramètres, qui ne fonctionneront plus sur la même architecture, l'architecture de condensation de la monnaie, les architectures d'unité de compte qui sont les 3 architectures reprises dans la finance classique. Je crois que ces architectures vont éclater, vont se diversifier, vont se complexifier, et que dans l'image que je vois là, je ne verrai plus du tout un paquet dollars, mais je verrai des paquets différents qui vont organiser des paquets de richesses différents aussi. Le problème va être la communication entre ces différentes richesses produites et dans lequel il y a tout le rôle que l'Internet va jouer. Alors, moi, je viens d'un sort de 4 jours d'atelier où on présentait la première plateforme internationale d'échange de monnaie complémentaire et de monnaie libre. Ça s'appelle le FloorPace. C'est un eBay à la puissance 1 million. C'est-à-dire, c'est la capacité pour des tas de réseaux différents fonctionnant sur des nouvelles modalités de production de richesse à s'échanger de la richesse en toute indépendance du dollar et de l'euro. Et je pense que c'est là que les choses vont se passer, parce que là, vous allez faire sauter le verrou, le cadenas qui empêche l'économie d'abondance. Parce que tout ce qui était organisé, c'est l'économie de la rareté. Et l'économie de la rareté, elle ne va pas avec l'économie de la biosphère. Donc, pour entrer dans une économie de l'abondance, quel type de système financier monétaire faut-il mettre en place? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont occupés de faire ça. Et donc, ce serait intéressant de s'y intéresser, et j'aimerais bien savoir quel est votre avis par rapport à ça.
Merci. Moi, une très courte remarque, et je passe la parole à Yann. Vous voyez bien qu'on oscille un peu entre 2 extrêmes. Hein. C'est ça qui est intéressant, cette oscillation-là. D'un côté, il y a l'émergence de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, une espèce de nano-économie. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la micro-économie, mais qui est beaucoup plus fin que ça. Et qui concerne effectivement, par exemple, des choses qui étaient largement implicites ou qui n'existaient pas sur le fait de l'absence d'infrastructure de réseau, mais qui concerne, si on prend cette image-là, effectivement, une espèce d'eBay très étendue, quoi, enfin, de modèle eBay hyper étendu. Et c'est de la nano-économie. Hein. Et une remarque là-dessus, mais moi, on en parlait avec Yann, justement, quand on regarde le marché de l'emploi, aujourd'hui en France, par exemple, vous avez, si vous additionnez les créations d'entreprises et les auto-entrepreneurs, vous arrivez à, pour l'année 2009, à un chiffre qui est 750 000 unités pour une classe d'âge de Français qui est 800 000. Il se passe quelque chose, quoi. Hein, ça veut dire qu'il y a quand même un problème avec le salariat, avec le salariat qui est une catégorie habituelle de la microéconomie. Bon. Et puis, il y a un autre extrême qui est le double problème de la noosphère et de la biosphère. Ce que Yann appelle la biosphère et la noosphère. Et là, on a un problème parce que la macroéconomie habituelle, elle est trop petite en quelque sorte pour rendre compte. Et donc, il y a un problème de commensurabilité. Et vous voyez que le problème, c'est qu'on est comme encastré entre ces deux choses-là. C'est-à-dire d'un côté, une espèce de nano-économie qui est émergente, mais alors on lui prête beaucoup ou pas, je ne sais pas, on verra. Puis de l'autre côté, une espèce de méta-macroéconomie qui est en train de se mettre en place, où il y a les prémices. Hein ?
Je ne sais pas pourquoi vous employez les termes de Teilhard de Chardin, méta-économie, biosphère, noosphère, c'est surtout des termes qui ont été appliqués à la multiplication des réseaux personnels en domaine spirituel, et tout d'un coup,
on pourrait dire Teilhard de Chardin, mais il y a d'autres gens qui les utilisent.
Comment ?
C'est Teilhard de Chardin ?
Non, même pas. Alors, ça, je peux vous dire, à ce moment-là, c'est de l'innutrition, parce que j'avais lu Teilhard de Chardin il y a très longtemps, mais je peux vous dire que ça a été employé plusieurs fois, c'est d'usage maintenant assez courant, dans les, notamment chez les écologistes, quand ça s'est fait, si vous voulez, la biosphère vous donne un certain nombre d'éléments, mais la biosphère ne permet pas effectivement de rendre compte de l'activité culturelle, des savoirs par exemple des peuples premiers, de l'ensemble de la sphère, de la sphère d'activité cérébrale et mentale en réseau. Bon, donc voilà, mais ça c'est une question de terminologie. Vous savez, s'il y a un autre terme, moi je ne fais pas de fétichisme de terminologie. Hein. Je trouve que ça, comme une bonne catégorie, ça couvre bien. D'un côté une chose et de l'autre ça complète bien, donc ça fait ce que doit faire une bonne catégorie, c'est-à-dire il n'y a pas de tertium quid non datur, il n'y a pas de troisième terme qui échappe aux deux, c'est-à-dire on est où dans la noosphère, on est où dans la biosphère, il y a des choses qui sont qui appartiennent aux deux, mais en tout cas, et nous nécessairement, parce qu'on appartient en même temps à la noosphère et à la biosphère, mais il n'y a pas de troisième terme. Il n'y a pas de rencontre de troisième type ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est en ça, hein, mais ce n'est pas vraiment une... Mais je voudrais peut-être, si vous le permettez, juste dire quelque chose à votre question qui me paraît extrêmement importante et pertinente. Je dirais qu'à partir du moment où, effectivement, on a compris que la finance n'est pas achetée dans un panier, c'est-à-dire je suis extrêmement sceptique, si vous voulez, sur les tentatives de réglementation de la finance auxquelles on assiste actuellement, et qui mécomprennent complètement la transformation de l'économie, donc qui ne pourront pas réguler la finance. Elles n'y arriveront pas. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons depuis 2 ans, c'est-à-dire ça pédale dans la semoule, complètement. Et je pense que c'est d'ailleurs là un des graves problèmes de l'administration d'Obama. C'est, si vous voulez, d'abord, il y a des problèmes de force. D'après ce que j'ai compris, il déteste encore plus que Roosevelt la sphère de la finance. Il a dit à peu près à son égard ce que Lénine avait dit des paysans, vous savez, on les aura pas en gros, mais on les aura au détail. Donc je pense que là, il y a quelques financiers qui ont du mouron à se faire, simplement pour l'instant, il est occupé par la question qui va bientôt se régler, j'espère, croisant les doigts, de la réforme de la sécurité sociale, et à mon avis, le prochain coup, là, il va y avoir du remue-ménage. Mais il est dans une situation qui est compliquée et qui est beaucoup... Il a beaucoup moins de pouvoir que n'en avait l'administration Roosevelt en 1930. Beaucoup moins. Donc là, ça va être une partie compliquée. Mais ce qui est terrible, c'est pas ça. c'est que même s'il a cette volonté de vouloir mettre au pas, réglementer la finance, etc., et donc il fait comme Monsieur Stiglitz lui demande, ou Monsieur Krugman, le problème c'est que Monsieur Stiglitz et Monsieur Krugman ont une vision d'économie dont je suis désolé de dire qu'elle appartient classiquement au mainstream, et qu'ils n'ont ni compris l'économie écologique, ni compris le problème des externalités. Pour eux, c'est toujours un problème secondaire. Donc s'ils continuent comme ça, effectivement, ils ne verront pas les nano-comportements qui sont les ferments, l'émergence du bottom-up de l'innovation, hein, c'est ça le genre, et du point de vue top-down de la macro, ils ne comprendront pas pourquoi ça continue à ne pas mordre, ça n'embraye sur rien. Alors, moi je suis d'accord avec vous que sur les questions de fonctionnement de la finance, de la relation de confiance, des investissements, de la nature des investissements, mais attention, hein, la finance, là on est plus, c'est dans les politiques industrielles que vous rentrez dans les politiques d'emploi, vous rentrez dans les politiques industrielles, vous rentrez dans les politiques redistributives. En particulier, moi je pense qu'il faut penser, les conséquences, je n'ai pas pu le développer là maintenant parce que ça nous prendrait la soirée, mais moi je suis un partisan, je ne vous cache pas que les discussions sur l'impôt entre la gauche et la droite disant il ne faut pas effrayer les investisseurs et l'emploi, et la gauche disant il faut créer un emploi progressif sur le revenu parce que c'est vertueux, ces deux discussions me paraissent aussi débiles l'une que l'autre. Parce que si on est dans une économie de pollinisation, la méthode fondamentale pour ramasser de l'argent, c'est de frapper uniquement la circulation. Puisque la richesse, c'est la circulation. Ce n'est pas le stock, le patrimoine, c'est parce qu'il y a un... Il faut donc créer une taxe sur toutes les transactions financières, internes comme externes. Et vous savez qu'il y a eu des recherches en France là-dessus, qui ont donné des trucs qui sont assez intéressants. À mon sens, je crois que, de la même façon que nous avons abandonné Ricardo, nous sommes avant Keynes, nous avons fini le cycle de la vieille économie politique fondée par Montchrétien. Nous avons changé de concept de valeur, de richesse, mais d'impôts également, et de production. Et je pense que c'est seulement avec l'ensemble de ces éléments qu'on peut notamment permettre de résoudre le triple problème actuellement, qui est une crise sociale grave, crise du salariat, crise de la protection, crise de l'emploi et de ces travailleurs cognitifs, qui sont très mal menés par les vieux systèmes qui n'ont jamais prévu ce genre de choses, qui n'ont pas été faits pour ça, crise écologique et crise, au fond, de savoir. On n'a pas assez de savoir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les industries automobiles savaient depuis 30 ans qu'à un moment donné arriverait la fin du pétrole, et vous prenez les choses, et à Compiègne, vous êtes bien placé pour le savoir, et vous avez des ingénieurs qui vous disaient encore il y a un an et demi, je me souviens d'un exposé, et qui disaient les moteurs, autres que le bon moteur à explosion à essence, on n'a rien à se mettre sous la dent pour l'instant. En termes de rendement, que les biocarburants, c'est une foutaise grandiose du point de vue des effets sur l'environnement et de ce que ça consomme comme énergie pour être fait. Le moteur à hydrogène, il faut 3 fois plus d'énergie que ce qui est rendu. Donc, pour l'instant, on est le roi est tout nu. Mais le roi est tout nu parce que depuis 30 ans, on sous-investit complètement dans ces domaines. On sous-investit. Complètement. Et ça, la bonne vieille industrie patrimoniale a montré sa cécité et son ahurissement. Malheureusement, les financiers n'ont pas fait preuve d'un grand sens théorique ni pratique et d'une longue vue pour se mettre dans les secteurs. Maintenant, ils courent, et pour y courir, ils ont besoin d'une bulle. C'est ça le paradoxe. Tout le monde vous dit, pour financer la Californie qui a déjà 7 milliards de trous de déficit budgétaire, hein, c'est la super Grèce, sauf que c'est une Grèce plus productive que la Grèce, encore que la Grèce, après tout, la Grèce peut vous dire, elle est la première productrice dans la première industrie européenne, et la première industrie européenne, je suis désolé de vous le dire, c'est le tourisme. C'est tout. Fermez le banc. Et la première industrie américaine, c'est Hollywood, les opérateurs de recherche, le numérique.
La
noosphère. Nous, on n'est ni dans l'autre, et à mon avis, on a du souci à se faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas du tout investi là-dedans. Alors, vous savez très bien que la finance, normalement, elle est faite pour faire passer, pour mettre en comparaison, pour faire circuler. Elle n'est pas faite pour cloisonner. C'est pas elle qui va cloisonner. Ce qui va cloisonner, c'est des politiques de développement qui vont dire, voilà, en Europe, il faut développer tel type d'emploi, il faut investir dans tel endroit, et maintenant, nous allons bonifier, nous allons dire aux financiers, bah oui, le marché veut aller là, mais nous, on veut que ça aille là, bah là il y aura tel et tel encouragement, ou telle bonification. C'est ça le rôle de l'État, hein, parce que réguler la finance, ça consiste pas à pondre une circulaire de normalisation et aller se coucher en se croisant les bras. Moi, je pense que ça, c'est tout à fait secondaire, ça sert à rien, ça ressemble à la bureaucratie soviétique qui émettait des lois avant l'effondrement de 89. Ça, c'est totalement, c'est similaire, c'est-à-dire on se paye de mots. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est grandiose. On est les champions du baratin. Et quand on demande une heure, il n'y a rien. Mais malheureusement, les Allemands qui sont endettés jusqu'au cou pour leur banque locale, qui ont une situation bien moins brillante que ce qu'ils racontent, c'est peut-être pour ça qu'ils... Bon. C'est global, hein, l'Europe n'est pas dans un bon état. Et donc, c'est pas, si vous voulez, la question, pour que l'innovation qui monte soit une chance de rencontrer quelques innovations descendantes, je pense qu'il y a du boulot sur la planche. Il y a du pain sur la planche. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous qu'on ne va pas se contenter de dire aux financiers, on va aller voir, ah, vous savez, c'est vachement bien ce que vous avez fait. Maintenant, si vous pouvez, si vous n'avez pas 100 balles pour l'écologie ou vous n'avez pas 100 balles pour le social, on ne va pas être content. Non, ce n'est pas comme ça, puisqu'il s'agirait de prendre une très grosse partie de ces liquidités pour les affecter à des projets de long terme. Et là, il y a un petit problème, comme vous le savez, la rentabilité écologique, c'est du 0%. Je pense que l'ère est venue des taux d'intérêt négatifs. N'oubliez pas que ça, c'est une mesure très simple, très efficace, et elle a marché pendant les 30 glorieuses. Et je pense aussi, autre préoccupation, moi, strictement personnelle, ça me préoccupe, je pense que ça va arriver, je pense qu'on aura une guerre des âges. Car les moins de 40 ans sont traités de telle façon qu'il y a un jour, ils vont vouloir avoir la peau des rentiers que sont les plus de 45 ans et qui sont en train de pousser le bouchon sur le plan de la rente immobilière, de la rente des retraites, etc., un peu loin, et qu'il va y avoir du schtroumpf de ce côté-là, et que ça, on aura des éléments, et on les aura vu venir, parce qu'on ne peut pas décemment préparer ce futur à nos petits-enfants, comme disait Keynes. Ça, c'est insoutenable. La soutenabilité, elle n'est pas simplement écologique, elle est aussi sociale.
J'ai une hypothèse un peu iconoclaste pour suivre une question. Mon hypothèse iconoclaste est, puisqu'on ne peut pas réguler la finance, pourquoi est-ce qu'on ne remplacerait pas l'argent par le troc? Mais le troc de chevaux, en fait, dont le calcul s'est fait sur base de valeurs immatérielles, de choses nécessaires et indispensables qui produisent la richesse. Et ma question est donc, est-ce qu'il existe d'accord sur ces choses immatérielles, nécessaires et indispensables qui produisent la richesse, ou bien ma question devient purement philosophique et n'importe rien.
Mmh. Tu veux peut-être dire quelque chose? Non.
Si, ça apporte beaucoup, parce que ça rejoint un peu d'ailleurs ce que décrivait monsieur, c'est-à-dire un système de fragmentation. Dans l'image que mettait Yann, là, non pas un paquet de dollars, mais une espèce de... Si on va jusqu'au bout de cette fragmentation, effectivement, on arrive à quelque chose qui métaphoriquement serait plus proche du troc que de la monnaie. Même si ça pose un autre gros problème, à mon avis, qui est que il y a besoin de la circulation monétaire parce que il y a besoin de créer des créances et des dettes. Hein. C'est l'économie avant se pencher. C'est-à-dire, la monnaie, c'est aussi l'invention de l'accord sur le futur et donc la capacité de créer des dettes et des créances. Hein. Alors si on arrive... Non, mais parce que si on... Oui, mais si on... c'est pour répondre à l'hypothèse de Dieu, parce que si on arrive à une économie du troc généralisée, en un sens, disparaît cette place-là. Qui est la place du futur.
Vous l'avez dit, la place du futur est hypothéquée par une économie à taux d'intérêt positif. Il faut passer à une économie à taux d'intérêt négatif. Ça change complètement la vision de la finance.
Oui, exact. Mais je pense que, en fait, derrière, si vous voulez, laissons tomber la question troc, pas troc. En revanche, il y a une question qui est importante. C'est l'accord que vous évoquiez à la fin. Y a-t-il des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord pour les mettre, petit a, hors prix, sans prix? C'est-à-dire décider qu'effectivement, la biosphère est une urgence mondiale. Alors, que l'activité humaine ait joué le rôle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'un gros brodo dans un verre de whisky ou de rien du tout, on s'en fout, le résultat est là. ça veut dire que vous avez 300 millions de personnes qui sont des réfugiés climatiques dans les 30 ans à venir. Hein. Moi, je ne peux rien si le ministre des Maldives a fait son dernier conseil des ministres sous l'eau et si les Maldives ont acheté quelques milliers d'hectares dans le plateau du Gécan. Ça commence à être des réalités immédiates. Quand on en est là, ça veut dire qu'on est vraiment arrivé à un truc très sérieux. Donc, ça, on sait que c'est une urgence. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas... C'est un inconditionnel, dirait Kant. C'est-à-dire que c'est une chose sur laquelle il n'y a pas de mégoter, dire on peut négocier, ça se négocie, tout se négocie. Non, tout ne se négocie pas. Tout n'a pas un prix. S'il y a des communautés humaines qui décident qu'il y a une chose qui n'a pas de prix, hein, c'est par exemple le cas, vous savez très bien, quand une communauté décide, pour des raisons de défense, que sa survie n'a pas de prix, eh bien, on n'emmerde pas les militaires quand ils disent, voilà, le prix de telle arme, c'est comme ça. Eh bien, là, on dit, c'est comme ça, et on ne commence pas à discuter. Ah oui, mais alors quand même, il faudrait que, n'est-ce pas, on diminue le prix de la bombe parce que machin. Donc, on peut déjà déterminer des sans-prix, des choses qui n'ont pas de prix. On peut déterminer des choses, on peut déterminer des mécanismes d'attribution d'un prix, précisément en recourant à ce que disait monsieur, c'est-à-dire en ne prenant pas le côté, en prenant la finance à son propre jeu de la complexité, en leur disant « arrêtez de nous traiter ça comme si vous allez discuter du prix, par exemple, de la préservation des réserves d'eau dans l'Himalaya ou les hautes montagnes, comme s'il s'agissait de la fourniture de dériver quelques petits milliards de litres de l'Amazone. Arrêtez de flanquer tout sur le même prix et de tout réduire. » Alors c'est en ça que je retiens votre suggestion d'une troquisation de la pensée et pas d'un équivalent général. C'est-à-dire on passe d'une économie de la contribution face à une économie de l'échange. Donc il ne s'agit pas de dire c'est le don, on est dans une économie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde... Non, il s'agit de dire on est dans une économie de contribution. Par exemple, il y a des activités prédatrices, il y a des activités pollinisatrices. Il y a des activités corallisatrices, il y a des activités qui détruisent les coraux. Il y a des activités qui ont une valeur fondamentale, il y en a d'autres qui ont une valeur relative. Il y a des choses après qu'on peut discuter, et ça n'est pas vrai qu'on ne peut pas hiérarchiser les choses. Il y a des externalités qu'il est utile d'internaliser. Actuellement, dire aux gens qui construisent, aux promoteurs et aux machins, vous allez construire, mais vous allez intégrer le prix du logement sur 75 ans, parce qu'on vient de s'apercevoir que le prix d'un logement sur 30 ans représente 70%, alors que le coût de la construction, c'est 20%. Hein ? C'est ça, les derniers chiffres, notamment des trucs américains, des green, des groupes verts qui sont en train de labelliser, de certifier des constructions vertes, ben on peut parfaitement se mettre d'accord, et c'est une nouvelle, ce sont des choses qui donnent des instruments, et à partir desquels les politiques peuvent, on peut juger du caractère sensé, insensé ou incompétent des politiques. Ça c'est quand même une chose qui est possible de faire. Sans qu'ils nous disent, oh, vous savez, il y a un avis, puis il y a un autre avis, finalement, que sommes-nous, où sommes-nous, où allons-nous, c'est pas très grave, etc., etc. Donc on peut quand même dire, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît pas, et on essaye d'être le plus nombreux possible à arriver à un avis commun sur des sujets qui sont importants, en décidant effectivement ce qui est de l'ordre de la pollinisation, ce qui est de l'ordre de la corallisation, ce qui est de l'ordre du moyen, ce qui est de l'ordre du moyennement important, ce qui est de l'ordre de l'inconditionnel. Par exemple, la question du social et de l'écologique. Hein, vous savez très bien qu'un des vieux arguments populistes sur la patrimonialisation, hein, et M. Sarkozy est champion parce qu'après avoir dit « nous avons fait le Grenelle, machin », il a dit à la foire des agriculteurs « il y en a marre de l'environnement, ils ne vont pas nous faire chier, on doit avoir le droit d'étendre du lisier et du purin comme on veut ». Bon, moyennant quoi, la Bretagne est nitratisée jusqu'au trognon. Vous avez vu que même les écologistes socialistes, M. Le Drian ne veut pas prendre de décision. La Bretagne fabrique des algues vertes par des milliers de tonnes, et maintenant on met le CNRS sur des projets. Oh, ce serait bien si on trouvait une utilisation non toxique de ces algues en fabriquant des matériaux composites pour l'industrie automobile. Alors là, vous vous prenez la tête par terre et vous dites, effectivement, c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi utiliser l'amiante, hein, utiliser l'amiante qui tue, pour le recycler dans des produits, par exemple, pour des pare-chocs automobiles. Hein, pendant qu'on y est, continuons. Donc vous voyez bien que ça c'est des choses. Moi il me semble que l'histoire du troc ou la reconquérir un point de vue d'ensemble sur l'économie, c'est parfaitement possible, c'est un point de vue hiérarchisé. Face à la monnaie qui a une fâcheuse tendance, on est bien d'accord, à glisser. Alors c'est avantageux pour créer, comme disait Antoine, des créances et faire un lien avec le futur et nous donner des moyens d'augmenter notre puissance d'agir, si ça devient la dilution de l'acide sulfurique pour transformer tous les projets en bouillie de chat, effectivement, ça n'augmente pas notre puissance d'agir, c'est le contraire. Mais ça, c'est des choses à décider. Mais je pense qu'il faut faire preuve d'aucun fétichisme, ni dans un sens, ni dans un autre. Mais il faut garder vraiment la tête froide sur la question.
Je vais prendre les dernières questions, s'il y en a, et vous inviter après à un petit verre. Est-ce qu'il y a encore une question, Michel ? Qui d'autre ? Personne ? La dernière ? Ok.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de venir au fond, au tout début de cette série de conférences, finalement, l'émergence on le sent hein, un peu partout, l'émergence de nouvelles valeurs humaines. Comment est-ce que vous, avec votre regard donc, de scientifique là-dessus, comment vous articulez l'économie de l'immatériel avec ces valeurs humaines émergentes? Où est-ce que vous les articulez? Peut-être pas, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez une clé ou... Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que ça, c'est imminent et c'est également une vague qui grandit à très, très grande vitesse dans les entreprises, dans le parti.
Alors, je vais vous dire, moi, une des choses qui m'avait frappé, j'avais fait d'ailleurs un papier en l'honneur de Saint-Saulieu, du sociologue français Saint-Saulieu, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans à Sciences Po, dans un truc qui s'appelait « Management social de l'entreprise » et qui a transformé un peu la vision des RH. Et j'avais fait quelque chose sur la question du modèle productif du logiciel libre, et de comment les communautés qui travaillent sur le logiciel libre, j'ai un thésard qui vient d'ailleurs d'achever sa thèse en décembre dernier, ce qui est très frappant, c'est que, si vous voulez, ces communautés de développement qui ne passent pas par l'entreprise, mais qui sont transverses par rapport à l'entreprise, produisent des valeurs nouvelles, c'est-à-dire produisent réellement, il ne s'agit pas du communautarisme qui produit, si vous voulez, comme les sectes du temps de Wenz, Après la défaite du mouvement ouvrier de 48 à 71, les communautés qui voulaient faire des choses, ils sont partis aux États-Unis et puis dans le fin fond de l'Iowa ou dans le Dakota du Sud, ils ont créé une communauté parce que là, ils pouvaient trouver 200 km² avoir la paix et ils sont mis à élever des moutons. Enfin, tradition d'ailleurs classique qui existe aux États-Unis depuis le XVIIe siècle et les puritains. Les communautés du libre... ont, si vous prenez un petit bouquin comme celui de P.K. Immanen, l'éthique des hackers, crée véritablement des valeurs. Elle crée des organisations, des institutions, des valeurs. Des valeurs à l'égard de la coopération, du travail, du temps, la valeur de l'argent, de l'accomplissement. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, face à une vision qui ne prend en compte, grosso modo, on peut dire que notre économie... bascule, passe de l'homo economicus qui n'est intéressé que par la libido scientiendi, hein, la libido de jouissance, d'un maximum de jouissance, celle de l'homo economicus, mais que déjà Saint-Augustin avait vu, et la libido dominandi. C'est-à-dire, on peut payer les gens, autrement dit, en pouvoir qu'ils exercent sur les autres ou en pouvoir de faire faire aux gens des choses. On le sait, c'est un truc connu. C'est-à-dire, quand on ne peut pas payer les gens, on les paye en pouvoir de faire chier les autres. C'est extrêmement connu. Bon. Mais ce sont les deux ressorts qu'on avait. Et dans le travail, l'analyse du travail, vous regardez, vous n'avez pratiquement jamais la reconnaissance d'une autre libido, de deux autres libidos. La libido sienne, c'est-à-dire le goût du savoir pour le savoir, de connaître, la curiosité. Et puis la libido ludendi, de jouer. Pourtant, les analyses éthologiques de l'homme montrent qui partage chat avec le chimpanzé et pas mal d'autres animaux, etc. Et que c'est des ressorts extrêmement puissants. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas, par exemple, du livre, P.K. Immanen montre que par rapport au vieux modèle de l'activité, grosso modo, de l'homme du Moyen-Âge, des monastères, le travail en commun collectif rythmé par l'heure, le temps, la discipline, machin, que la grande entreprise a repris, plus le protestant de Weber avec le profit et la réalisation de soi à travers le critère de la réussite matérielle, eh bien, on n'avait pas grand-chose comme nouveau modèle. Parce que le modèle socialiste, de ce point de vue-là, est désespérant. Il rajoute simplement, il peinturlure le tout en collectif et des fins collectives, et puis c'est toujours la même chose. Et on peut dire que dans le socialisme, on a remplacé la rémunération par le marché, par la rémunération par le pouvoir. Mais rien du point de vue du... Hein, vous savez que ces sociétés étaient des sociétés dans lesquelles on ne jouait pas beaucoup, et dans lequel l'humour était assez limité, si ce n'est l'humour du désespoir. Bon, donc là, on voit qu'émergent des valeurs à l'égard du temps, des valeurs à l'égard des autres, des valeurs d'émulation qui ne sont pas les valeurs de la compétition économique. Alors, au début, les gens disent « Oh non, ce n'est pas... Oui, c'est marginal. » Ben, ce n'est pas si marginal que ça, à preuve. Que c'est, ça s'est tellement développé dans la culture, y compris de celle des entreprises, que le modèle open source a fait fureur, a commencé à s'installer, et que en 2004, IBM, s'il vous plaît, qui avait suivi un processus d'immatérialisation croissante, quand vous pensez qu'ils ont commencé dans les années 30 à fabriquer des calculettes et des horloges, puis des très gros ordinateurs, puis des programmes, des très grosses machines, puis des programmes, et maintenant des solutions. Et pour finir, nous travaillons, nous sommes un IBMer parce que nous travaillons une planète intelligente, ça vous rappellera des choses que j'ai dites tout à l'heure. Eh bien, ils ont décidé d'investir 3 milliards de dollars dans le développement de Libre. Pourquoi ? Parce que leurs ingénieurs qu'ils avaient, qui n'avaient pas été formés au Libre, étaient incapables de répondre à des demandes croissantes d'une partie du marché et de l'organisation sociale. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas dans le système open source va être un infirme. J'allais dire, quelqu'un qui travaille avec le Diplodocus Microsoft, le dinosaure Microsoft, va devenir de plus en plus handicapé dans la coopération d'un grand nombre, d'un plus grand nombre, etc. Donc on a l'émergence, je veux dire, de valeurs. Vous parliez de valeurs, et c'est pas un hasard si cette creative class, d'un côté, se recoupe avec des préoccupations écologiques. Un certain rejet d'une rationalité hiérarchique classique. Il y a de la hiérarchie dans les communautés du livre, mais c'est de la hiérarchie d'émulation qui est beaucoup plus proche, comme dit P.K. Manen, des deux modèles qui servent d'attracteur maintenant, y compris à l'industrie, et qui avaient été bannis sur la marche, c'est-à-dire le modèle créatif de l'art et le modèle créatif de l'académie, c'est-à-dire la reconnaissance par les pairs et la reconnaissance du travail artistique. Ce sont les deux modèles, hein, c'est pas un hasard si tout le monde parle de créativité à propos de Bode d'ailleurs. Bon. Ça veut dire qu'on a une mutation des valeurs, on a une transformation des valeurs, des organisations, des faits, et qu'une série de choses qui étaient considérées comme le passage à l'état adulte, que les gens pouvaient faire des choses jusqu'à 25 ans, et puis après quand même ils se calmaient, ils avaient une femme, des enfants, il fallait qu'ils aient une bagnole, une maison, et donc ils rangeaient tout ça aux accessoires du grenier, avant de les retrouver à leur retraite à 65 ans, et ils rentraient dans le moule. Et ça, c'est pas vrai. C'est plus vrai, et c'est plus vrai aussi parce que la condition salariale a cessé d'être le modèle classique, et vu qu'elle ne remplit même pas les obligations qu'elle remplissait avant, c'est-à-dire le contrat, j'allais dire de confiance à la Darty, le contrat de confiance d'employé à vie ou de très long terme, eh bien la relation s'est dénouée avec les entreprises, les phénomènes de peu de confiance, de peu de loyauté, on ne fait pas sa vie avec l'entreprise, on ne fait pas tous ces phénomènes-là qui croissent et embellissent. Donc je pense qu'il y a du côté à la fois des entreprises des vrais problèmes d'émergence de modèles disciplinaires, c'est une évidence. Hein, on ne gère pas des gens à bac plus 5 comme on gérait des gens à bac moins 5. J'allais dire, dans le deuxième cas, on est dans le modèle de l'armée, avec les adjudants, dans le bac plus 5, c'est fini. Il y a des modèles qui ont cessé de pouvoir fonctionner. Et ça, c'est le côté négatif pour les entreprises, parce que ça veut dire qu'elles se transforment, mais il y a des côtés très positifs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui émergent nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a des comportements, quand on sollicite la créativité, le fait d'être pas dans un rapport de guerre permanente avec les gens d'à côté, des autres entreprises, etc. Il y a une compréhension du territoire aussi qui est très importante, qui a changé. Le territoire, avant, c'était un lieu de prédation pour l'entreprise. C'était un lieu où on était installé là, on campait, on prenait ce qu'il y avait de bon, on rejetait le reste, et ce n'était pas du tout le lieu où on pouvait exister. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui, des PME, si elles ne sont pas dans un territoire inventif, un territoire d'excellence, elles n'y arriveront pas. Donc ça, c'est des changements, des transformations, à mon avis, de si vous voulez, éthiques et des valeurs. Et c'est des transformations qui surgissent de l'organisation même du travail. Et c'est pour ça que j'ai une grande confiance en elles, leur capacité de se reproduire, et pas simplement d'une adhésion idéologique. Même chose pour l'écologie. L'écologie, jusqu'il y a 2-3 ans, je le regarde en France, puisqu'on analysait les résultats Europe Écologie, jusqu'à 2-3 ans, les écologistes, c'était des farfelus qui avaient des idées, une idéologie. Comme il y avait des communistes, comme il y avait des anarchistes, comme il y avait des libéraux, comme il y avait... Bon, il y avait des écologistes. Et là, ce qu'on a vu apparaître depuis 2-3 ans, c'est avec la crise, avec la question d'urgence écologique, avec les questions d'emploi, on s'aperçoit que ça sort des préoccupations et de travail et de vie quotidienne. C'est-à-dire que ça devient, si vous voulez, ça renoue avec la structuration des classes sociales. C'est plus une chose qui a échappé dans la sphère complètement détachée d'une idéologie qui peut être indépendante des enracinements matériels et sociologiques des gens. Donc, moi, je trouve que, si vous voulez, les choses avancent même assez vite de ce point de vue-là. Et je trouve qu'il y a un grand décalage entre l'écoute de la classe politique de ces phénomènes-là et au contraire le repli plié, le repli peureux sur des solutions beaucoup plus simples qui consistent à caresser œil pour œil, comme disait Platon, les très nombreux dans le sens du poil le plus populiste possible. C'est-à-dire, il y en a marre de cette économie virtuelle, ça nous fait chier, les banquiers sont des salauds, les petits cons sont des... Tout ça, c'est des danseuses, tout ça doit reposer sur de la bonne métallurgie. J'ai l'impression d'entendre Pétain. J'ai l'impression d'entendre la terre ne ment pas, la métallurgie ne ment pas, l'usine avec son gros panache bien dégueulasse, ces mines qui brûlent, machin,
même
c'est ça la
réalité. Même à gauche,
oui, et à gauche, je dirais le pire. Parce que la gauche est encore plus bouchée là-dessus que la droite.
Il y a ces paroles optimistes. Je vais le mot de la fin à notre optimiste en chef.
D'accord. Alors d'abord, je voudrais vous remercier très vivement pour cette très très belle conférence. Je vais vous offrir un petit cadeau. Un parfum d'optimisme que nous avons créé au sein de la Ligue.
Merci.
Voici. Et des boutons de manchette de la Ligue optimiste. Alors, moi, je dois vous dire que je me réjouis et je dirais, je suis de plus en plus optimiste par cette crise qui nous frappe et je pense que cette crise est bien plus qu'une crise. Je crois que c'est une vraie révolution. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense que c'est une révolution qui va sonner le glas d'une société de surproduction et de surconsommation de biens à faible bonheur ajouté. Je crois vraiment que si le monde se mettait à vivre comme nous vivons ici en Occident, ben je crois tout simplement que le monde ne peut pas survivre. Et donc, pour revenir à cette philosophie d'Emmanuel Kant qui disait « il faut agir de telle sorte que l'ordre du monde ne soit pas troublé si tout le monde agissait comme nous agissons ben », je crois que là, il était grand temps que nous cassions cette machine infernale de l'économie que nous avons connue. Alors je pense évidemment comme vous que nous ne savons pas encore très bien ce que nous allons faire maintenant. Ça c'est un problème, mais je pense que la détruire ce que nous avons détruit, c'est déjà très bien. C'était un gros boulot et je pense que nous l'avons fait et je m'en réjouis. Alors en fait, ce que nous sommes occupés à faire ici au sein de la Ligue d'Optimisme, c'est créer l'Optimistan. Et l'Optimistan, c'est un état métaphorique dont tous les membres sont les citoyens. C'est un état de conscience. Nous avons parlé tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur Pierre Le Jardin. C'est précisément cet état de conscience, selon cette théorie de Pierre Le Jardin, qui disait que, à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Alors, avant de vous inviter à prendre un verre, j'aimerais bien céder la parole 2 minutes à Christophe Delire, 3 minutes, pardon, à Christophe Delire, optimiste des communications de l'optimiste. Et il va vous expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il est occupé à faire. Christophe.
Merci, Luc Simonet, président de l'Association des optimistes, la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Alors, effectivement, on construit l'optimiste, cet état de conscience. On est dans la construction d'un réseau des réseaux, c'est-à-dire un maillage des sites sociaux. Et nos appels à nous, eh bien, ce sont nos optimistes de par le monde. Et si l'appel, effectivement, et c'est une démonstration magistrale qu'on nous a fait ce soir, que l'économie de la pollinisation est effectivement quelque chose qui nous ouvre un avenir radieux, les optimistes ne peuvent donc qu'aller dans ce sens. Cette économie ou cette politique de pollinisation est un peu plus complexe que cette abeille qui va effectivement polliniser. Elle n'en a rien à foutre de polliniser, on l'a dit, bien sûr, elle va manger, mais on n'a pas dû lui apprendre à voler, à cette abeille. Donc de manière naturelle, elle s'est mise à voler dans le cas de nos membres, et sur notre réseau des réseaux, pour polliniser, c'est-à-dire pour déposer les contenus sur les différents sites sociaux, c'est pas aussi simple. Il faut maîtriser l'outil, les outils web existants, Et c'est dans cette démarche que la Ligue des optimistes sans frontières s'inscrit. C'est sur ce partage de la connaissance. Et mon travail, moi, consiste sur la partie réseau des réseaux et web à effectivement apprendre à nos abeilles, à nos membres, à utiliser les outils qui aujourd'hui vont leur permettre de communiquer leur contenu optimiste, de faire partager leur vision du monde. Et autre remarque, par exemple, en ce qui concerne les abeilles, c'est que ici, qu'est-ce qui va motiver nos membres à apporter du contenu de manière naturelle ? Bien, c'est simplement l'envie de partager leur vision optimiste du monde. Mais je dirais aussi que c'est un peu complexe au niveau mécanique. Et donc, ce que nous faisons, moi, ce que j'ai comme autre métaphore, que j'aime bien plutôt imaginer, aller mettre une dynamo sur la roue arrière du vélo sur lequel le mec est en train de pédaler. Il ne s'en rend pas compte, parce qu'on arrive à mettre une dynamo qui ne prend pas trop d'énergie au vélo, mais par contre, il produit de l'énergie et il produit du contenu sans qu'on vienne lui remettre un fardeau supplémentaire sur ses habitudes quotidiennes. Voilà. Donc, vous pouvez découvrir tout cela sur optimistan.org et décoder à travers les différentes expériences que nous faisons au quotidien mes propos. Ce soir, la conférence était, par exemple, retransmise en direct et en temps réel sur nos réseaux sociaux. On a pu donc apprécier votre prestation magistrale ce soir dans le monde entier. Et pour l'éternité, puisque les contenus sont pérennes après, ils sont en VOD, c'est-à-dire en vidéo on demand, et mis à la disposition pour les siècles des siècles. Amen.
Ça ne s'invente pas, c'est Christophe Delire. C'est bon, c'est ça.